Dans le Tempo, épisode 55. On y va. Vous êtes dans DLT, bienvenue, ouais. Le podcast des passionnés de musique, patati patata.
Exactement.
Le meilleur podcast de la galaxie, on disait la galaxie la dernière fois.
Galaxie, on avait dit ?
Ouais, okay. Un truc comme ça.
Le meilleur podcast de la galaxie.
Oui. Nanani nanana.
Exactement. Ça va, Daz ?
Ouais, tranquillement.
Voilà, tout se passe bien.
Oui.
Nouvel épisode, tu sais quoi ? Normalement, cet épisode sort une semaine après le précédent. Figure-toi qu'on a dû réajuster un peu notre calendrier, etc.
Je comprends pas.
Et comme on est généreux, au lieu que ce soit tous les 15 jours, là, je pense que cet épisode est sorti une semaine seulement après, tu vois, celui qui le précède. Et que dans une semaine, il y en a un nouveau, Daz.
Mais Salman,
oui.
On a couru après le calendrier parce que justement, on n'avait pas suffisamment d'épisodes d'avance.
Je sais. Non, mais on cherche la merde, oui.
Ok.
Oui, Daz.
Ok.
Mais c'est la générosité. On offre des épisodes comme ça à l'appel, tous les 15 jours. Puis allez, on a qu'un an, tu vois, en plus, comme ça.
Mais est-ce que du coup, ça ne se cannibalise pas un petit peu ?
Non, pas une fois par semaine, ça va, non ?
Non, quand même.
En plus, c'est one shot, tu vois, c'est juste comme ça.
Ok. Ouais. Ok. Donc là, c'est juste vraiment pour le kiff de se dire.
C'est pour le kiff. Non, en vrai, c'est par rapport à YouTube, réajustement par rapport à nos publications.
Ok.
C'est un peu le bordel. Mais voilà.
D'accord.
On donne des épisodes, c'est la passion de la musique, on partage.
Eh oui, plaisir d'offrir. Absolument. Plaisir d'offrir.
Et en parlant de plaisir,
oui.
On a un plaisir, celui de recevoir un artiste.
Eh oui, plaisir d'offrir, joie de recevoir, justement. Ça tombe très très bien.
Puisque nous sommes avec Timur.
Zimmer, donc.
Zimmer, ouais. À l'allemande ou pas, ça va?
moi je le fais à la française.
Tu fais à la française, très bien.
Zimmer, ouais.
Merci en tout cas d'être avec nous.
Bienvenue.
Merci de me recevoir.
On peut t'appeler aussi Baptiste. Je sais pas ce que je vais faire dans ce podcast.
On va alterner, je pense.
Soyez libre.
Ouais.
Bon, en tout cas, c'est un grand plaisir de te recevoir. Tu es artiste de musique électronique, à mi-chemin entre la pop, la techno. Je sais que c'est deux univers qui te tiennent à cœur. Parfois, tu sais pas trop où te situer d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
On peut en parler.
Je te présente rapidement puisque, en gros, vraiment publiquement, on a commencé à te connaître à partir de 2011. Tu sors ton premier EP, Horizontal Disco. Entre-temps, derrière, tu enchaînes les singles, les EP, jusqu'à ton premier album en 2019, qui s'appelait d'ailleurs Timur.
Album éponyme.
C'était pour te présenter, pour dire me voilà.
Exactement.
T'as quand même 8 ans de...
Ça, tu vois, ça c'est un truc intéressant, t'as raison de noter ça. 8 ans avant le premier album.
C'est 8 ans de maturation.
Non, mais en fait, ce qui s'est produit, c'est que ce premier EP était quasiment composé des premiers morceaux que j'avais jamais fait de ma vie. Un morceau qui s'appelle Cruising, qui est le premier que j'ai sorti, est littéralement la première fois que j'ai fait exporter dans Ableton et que ça ressemblait à un morceau. Mm-hmm. En fait, je l'ai sorti, quoi.
Donc c'était sur Horizontal Disco en 2011, premier EP.
Exactement.
C'est-à-dire que, donc là, ce que t'es en train de dire, c'est toi, t'arrives, t'allumes les machines, tu fais un truc, et c'est écoutable.
Sur un malentendu, c'est écoutable. Franchement, c'est à peu près ce qui s'est passé.
D'accord.
Toute ma vie avant, une fois par an, j'ai essayé un petit peu de bidouiller un truc sur Logic, j'y arrivais pas.
Ouais. Et c'est vraiment Ableton qui t'a...
Ouais, un pote m'a montré Ableton et on a fait quelques trucs ensemble avant avec ce pote, mais la première fois que je me suis vraiment posé tout seul à essayer de faire un truc, c'était un morceau à peu près écoutable, quoi. Donc j'ai envoyé à des gens, machin, et puis ça c'est sur un malentendu, ça a été signé.
C'est quoi ton rapport à ce morceau maintenant, par exemple, quand tu le réécoutes?
C'est marrant, j'ai écouté il y a une semaine et c'était moins pire que ce que j'imaginais. En vrai, je trouve que ça passe si mal vieilli. Il y a d'autres trucs qui vont... Enfin, la prod est ce qu'elle est. Je pense que ça sonne mieux aujourd'hui.
Allez, on est encore en plein dans l'intro et tout, mais c'est pas grave. On l'écoute.
Ah, t'es dur.
Bah non, attends, tu dis que ça va au final.
On va laisser le public juger.
Mais oui. Attends, donc sur Horizontal Disco sorti en 2011, et c'est Cruising,
ouais, c'est le premier.
Allez, c'est parti.
Ça va,
hein. J'avance un petit peu pour qu'on voit la suite, ouais. Si ça va vraiment.
Ça me fait penser au Demo Maker sur Amiga et Atari.
Tu sens qu'il y a une petite influence,
ouais,
en vidéo, un truc,
ouais,
comme ça,
ouais, un petit peu, ouais.
C'est un truc que t'aimes bien ou ça peut être une inspiration?
C'est du pif.
Non, pas du tout. En vrai, je suis pas gamer pour un sou. Enfin, je suis gamer de sport.
Genre FIFA et NBA.
FIFA, c'est arrivé après. Ouais, exactement, c'est les deux. Enfin, ouais. C'est mes deux sports de prédilection pour le coup en plus. Mais non, quand j'étais gamin, je jouais à Championship Manager.
Ah oui, d'accord, carrément. Ouais. Ok, Football Manager, tout ça. Ok.
C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a cet écart de 8 ans pour ton premier album. Je termine juste un peu ta présentation. Et arrive, 3 ans plus tard, en 2022, Amour, ton deuxième album.
Exactement. Plus rapide là, tu remarqueras. Trois ans, ça délivre.
Bah maintenant que t'es lancé, c'est bon quoi. Et il y a un autre élément en fait dans ton parcours qui est intéressant, au-delà du fait d'ailleurs que j'aime beaucoup l'album Amour, c'est que tu es DJ aussi en parallèle de la composition, du côté producteur entre guillemets, producteur au sens anglais du terme, enfin américain du terme. Tu composes, mais voilà, tu fais beaucoup de DJ sets, tu tournes beaucoup dans le monde, même d'ailleurs beaucoup en Amérique du Nord, beaucoup en Asie. Là, j'ai vu par exemple que à l'automne prochain tu passes à New York, Los Angeles, Guadalajara, Mexico. Cet été, tu étais à Séoul, Taipei, Singapour.
Bon, ah ouais,
ça tourne. Et ouais.
Non mais oui, ça fait quasi 10 ans que je joue dans ces contrées lointaines et ouais. Non, c'est chouette. Ouais.
Mais c'était alors je sais pas, t'as fini l'intro ou pas?
Ouais.
Juste
ce qu'on peut dire en fait, c'est que ouais. Justement avec ton profil, donc déjà ça nous fait plaisir de te recevoir parce qu'en plus je sais que tu es auditeur du podcast, ça fait plaisir.
Faire bon auditeur.
Cool. Et en fait on s'est dit que avec toi l'un des thèmes qui serait intéressant, c'est justement ces deux aspects de ta carrière entre guillemets qui doivent certainement se mêler à certains endroits, la composition, le DJing, proposer des DJ sets aussi. C'est pas exactement la même pratique, mais il y a certainement des chances qu'elles se nourrissent, etc. Et on voulait parler un peu de, et voilà, DJing, composition, est-ce que c'est les deux phases d'une même pièce? Comment tu vis un peu cette pratique, ces deux pratiques différentes? Et puis peut-être dans un deuxième temps, interroger un peu le circuit plus spécifique des DJs, parce que c'est un truc qu'on n'a pas encore fait dans cette émission ouais. On sait qu'il y a des endroits spécifiques où les DJs se produisent, qu'il y a des réseaux, des tournées, etc.
De l'argent.
Il y a le club, mais il n'y a pas que les clubs, il y a aussi les soirées, parfois même de l'institutionnel, des marques, des choses comme ça qui peuvent faire appel à des DJ. Bref, il y a plein d'éléments extrêmement intéressants dont on peut discuter dans le cadre du circuit DJ. Et c'est ce qu'on va faire. Et Daz, tu voulais inaugurer ouais. la première question. On part sur le côté DJ, compositeur et tout.
Je m'en rappelle plus.
C'est
sûr.
Non, attends, si, parce que c'était un truc par rapport au fait que.
Il y a 8 ans, non?
Bah, alors, il y a 8 ans déjà. Bon, non, déjà, c'est. Premier export Ableton égale un EP signé, tu vois.
Ça fout la rage.
Ouais, quand même.
C'est n'importe quoi.
Par rapport à des gens qui galèrent.
Après, il fallait en refaire. Parce ouais. que du coup, la première fois, t'as un coup de chance et après, du coup, le label est là. Bon, bah, du coup, tiens, on a une demande de remix et machin.
Et alors, là, genre, ouf. Parce que le label, on le connaît.
Bien, absolument. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu le spécifier.
C'est vrai qu'on l'a pas dit.
C'est que je te laisse présenter ton label.
Bah, toute ma discographie, sauf cette EP, est sortie sur un label qui s'appelle Roche Music.
Et voilà.
Ça me dit quelque chose.
Oui, c'était pas une de nos émissions.
Mais si, on avait reçu Césaire.
On a reçu Césaire de Roche Music.
Base de Roche Music.
On avait... Donc là, moi, je fais une dédicace à Yann aussi, un pote qui est fan absolu de Roche Music.
C'est vrai.
Ouais.
Il a bon goût.
Là, je lui ai pas dit, putain, on a Zimmer aujourd'hui, sinon il serait venu, je pense. Donc, voilà. Big up à toi. Mais du coup, le premier EP est pas sorti chez Roche.
Non, c'est sorti sur un label portugais qui s'appelle Disco Texas.
Et comment? Mais en fait, la question, c'est comment?
Ah oui.
Comment t'as été édité?
Comment t'as
trouvé? Alors en fait, j'ai de la naïveté de mes... Je sais plus quel âge j'avais, genre 23 ans, je crois.
Ouais.
Je me suis dit, ce morceau, il est pas mal. Du coup, je vais l'envoyer à mes trois producteurs préférés du moment.
Ok.
Et vraiment, DM SoundCloud, je l'avais publié, je l'avais fait masteriser, je l'avais d'abord publié juste comme ça, quoi. Quelques dizaines d'écoutes. Et je l'ai envoyé à l'époque, c'était à Alan Brax, à Aeroplane et Moulinex, qui est un DJ portugais. Et à ma grande surprise, il y en a deux des trois qui m'ont répondu.
Ok.
Mais en fait, tu vois, je le renvoyais pas en mode.
Il y avait un français dans le lot ou pas?
C'est le français qui m'a pas répondu. Le belge et le portugais m'ont répondu. Okay. Et en fait, j'aurais pas dit, tiens, tu veux pas signer mon truc? En fait, j'ai fait un truc tout simple, c'est que j'aurais raconté mon rapport à leur musique. Et les trois, c'est des gens que j'avais vu en DJ set, vraiment que j'ai
fait une lettre de motivation, quoi.
Ouais, non, enfin, franchement, tu fais une lettre de. Non, mais et vraiment, et c'est marrant parce que souvent, mes potes qui veulent justement être signés dans les labels et tout, ils me disent, mais comment t'as fait? Et je leur dis, en fait, la base d'un truc comme ça, c'est que t'intéresses à ce que l'artiste fait, en fait.
Mmh. Oui.
Et je leur ai, enfin, en fait, je leur ai parlé de l'émotion que j'avais en écoutant ma musique, et je leur ai dit, bah, du coup, moi, j'ai fait ça, et je serais bien curieux d'avoir.
Non, en écoutant leur musique, tu veux dire, l'émotion que tu avais en écoutant leur musique.
Chacun, c'est, vraiment, j'avais des super souvenirs. Il y en a, enfin, je les avais tous vus au Social Club parce que je passais ma vie au Social Club à cette époque.
Donc, qui est un club parisien qui était mythique.
Exactement. Et vraiment, j'y allais tous les week-ends parce que c'était fou, tu vois. Enfin, je venais d'arriver à Paris de ma campagne. et en fait, littéralement, c'était. Mais tout ce que je voyais sur les blogs, c'était la programmation du Social Club. Il y avait tout le monde jouait là-bas. Et bref, en tout cas, tu vois, je pense que je leur ai écrit un truc qui leur a donné envie de me répondre. Et c'était plus, qu'est-ce que vous pensez du morceau, en mode, qu'est-ce que je peux améliorer? C'est ouais. La première démo, qu'en pensez-vous, tu vois? Et Mouninex m'a dit, ah tiens, tu devrais changer ça, ça et ça. Et du coup, je lui renvoie une version.
C'était pertinent, ouais, ces retours?
De ouf, c'était trop bien. Non, mais du coup, super intéressant d'avoir vraiment quelqu'un, parce que... je connaissais pas encore la Clique Roche à cette époque, donc dans mon entourage, j'avais pas vraiment de producteur à qui je pouvais me référer, en fait. Donc tu vois, vraiment naïvement, je me suis dit, bah, je vais demander à mes préférés. Et je lui renvoie une version, il me dit, ah bah trop bien, est-ce qu'on peut le signer? C'était genre.
Ah ouais, ouais.
Littéralement, genre, meilleur moment de ma vie. Vraiment, à ce jour, je crois que c'est le mieux. C'est le moment je suis dans ma chambre.
Ouais.
Ah, genre, ça y est, j'ai un pied dans ce monde-là.
Mais t'avais quand même. Est-ce que t'avais déjà une pratique musicale? Est-ce que par exemple t'étais déjà DJ ou pas encore? Et sur. Parce que tu vois, ne serait-ce que la conscience avait fait masteriser le truc. Ouais, quelqu'un qui débute, il n'a pas forcément conscience qu'il faut masteriser avant le release, tu vois.
Ouais. Ouais, en fait, je suis rentré dans la musique par le biais du DJing. C'est ma première école, c'est le truc qui m'a donné envie de m'intéresser à la musique électronique, c'est vraiment ça, tu vois. Et en fait, j'avais déjà un certain parcours de DJ, tu vois, j'ai 22, 23 ans. Mmh. Ça faisait 6 ans que je mixais déjà.
Ah oui.
Ah oui, d'accord.
Donc, tu vois, et j'ai vraiment, franchement, j'ai tout fait, quoi. J'ai fait les anniversaires des potes où mon père me ramenait en bagnole avec la chaîne IFI de mes parents et genre l'ordinateur virtuel DJ et une tour. Donc j'avais une tour, un écran et un petit Hercule DJ console qui était le premier contrôleur, tu vois. J'ai fait ça genre pendant un an. Après, j'ai fait, j'ai mixé aux 50 ans de mariage de mes grands-parents pour toute la famille, tu vois. Et vraiment, j'ai gravi tous les échelons comme ça, tu vois.
Quand mais donc il y avait quand même 6 ans
c'est
de
ça aussi
pratique.
Qui explique,
Oui, donc je pense que. Mais j'avais pas ce truc pour la prod avant.
Ouais. Oui, mais du coup, c'était une évolution un peu logique. Parce que du coup, le fait d'être 6 ans de DJing, mine de rien, tu sais ce qui s'écoute, tu sais ce qui marche, tu comprends, tu arrives à capter le.
T'as fini tes goûts.
Ouais, bien sûr.
C'était pour toi à cette époque-là une forme de logique, comme dit Daz, de passer du DJ au producteur?
Pour pas vous mentir, c'était un truc du... enfin, en fait je jouais déjà un petit peu à Paris, mais franchement je jouais dans des bars pas ouf, enfin tu vois, je faisais un peu de soirées privées, enfin en fait c'était pendant mes études, c'était mon job étudiant, tu vois, pour m'acheter des fringues, pour sortir et tout. Vraiment, j'allais mixer pendant 4 heures dans des bars où j'avais, enfin c'était plutôt cool parce que je pouvais jouer ce que je voulais, tu vois. Ouais. Donc en plus j'en ai, enfin c'était trop bien, ils avaient des CDJ 1000 à l'époque qui était le standard.
Ouais.
Donc j'ai appris à jouer sur les vraies platines. Donc enfin finalement ça a fait que quand j'ai dû jouer dans des clubs, j'étais prêt entre guillemets. Et ouais, j'avais trouvé un petit peu la musique qui me parlait, parce qu'en fait quand tu commences un parcours de DJ, bah tu te cherches et puis un jour, enfin tu découvres un courant musical. Pour moi c'était la new disco. Donc avec des mecs comme en France, t'avais Breakbot, t'avais Lindstrom, Todd Terrier, les
J'adore
Norvégiens.
Todd Terrier.
C'est trop bien.
Ouais.
Vraiment, je me suis pris ça, mais c'était Aeroplane, les Belges. Enfin, le premier album, We Can Fly, des morceaux comme ça, Caramel, enfin, incroyable. Et je me suis pris cette claque. En plus, c'était l'époque où les blogs étaient hyper influents. T'avais un blog qui s'appelait Disco Dust, t'avais Fluo Kids, qui avait un peu plus des bangers... Et en fait, je me suis pris tout ça et c'était magique, tu vois. J'ai digué ça et tout. Et du coup, je me suis dit, ben, enfin, une musique vraiment qui me parle. Mmh. Et je vais essayer de la faire. Et en fait, je sais pas, j'avais une affinité avec cette musique. Et du coup, ben, quand j'ai essayé, ça a fait ce cruising, quoi.
Il y a un standard de cette époque, là, pour illustrer un peu cette tendance new disco, un morceau qu'encore aujourd'hui tu apprécies, qui peut être un peu représentatif peut-être de ce mouvement.
On peut écouter Caramelas de Aeroplane, qui est un de leurs premiers morceaux.
Donc Aeroplane, à qui t'avais envoyé la démo?
Ouais.
Et qui t'ont répondu?
Ils m'ont répondu, ouais. À l'époque, c'était un duo, et après, c'est devenu... Ils se sont séparés. Aeroplane, c'est resté quelqu'un qui s'appelle Vito, Et c'est l'autre qui s'appelle Stéphane est devenu The Magician.
D'accord.
Qui fait notamment le très célèbre I Follow Rivers.
Ah.
Le Rousseau Remix.
D'accord. Ok.
Très bien. Et bah écoute, on s'écoute Caramelaz, Aeroplane. J'avance un tout petit peu.
Ouais, tu peux. Wow, la progression elle est folle.
Okay, bon, donc toi ouais. Tu t'inscris dans ce courant musical là de New Disco
d'accord. Initialement en tout cas, ouais, parce que ta musique a évolué quand même avec le temps.
Oui, clairement, je pense qu'il y a eu plusieurs phases, il y a eu peut-être 3 ou 4 phases, mais au début, oui, c'est vraiment ça. En plus, ce qui est intéressant, c'est que comme beaucoup de courants frais, il y a plein de marqueurs très spécifiques. Tu as ce truc d'abord du tempo très lent. Mm-hmm. Tu vois où ça, Caramella, ça doit être 105 BPM, Cruisine, c'est pareil. Enfin, ouais, tout le début de ma production, il n'y a rien qui dépasse 110 BPM. Et tu as vraiment ce truc un peu d'éloge de la lenteur. Mm-hmm. Et d'avoir ce truc avec beaucoup de percussions, de shakers, des super progressions de piano et un peu ce son... Space Disco, enfin un peu les synthés de l'Italo Disco, mais vraiment ralenti, tu vois.
L'utilisation des cordes aussi beaucoup, là, on entend.
Ouais, beaucoup de cordes et un truc un peu aussi dans l'Italie des années 70, tu vois, un truc un peu grandiloquent et nostalgique. Et ouais, moi j'ai adoré. Et en fait, t'as un peu ça aussi dans le début de Roche Music, où en fait, le début de Roche Music, la caractéristique principale, c'est que c'est des tempos super lents. Mmh. Après, ça a évolué dans cette espèce de truc un peu plus tropical où il y avait beaucoup de marimba, le corps gamin à fond. Mais c'est un peu une évolution. En fait, cette musique-là est un peu la base de toute l'histoire de Roche Music aussi, en fait. Mmh.
Mais du coup, pardon, hein,
non, je t'en prie,
je
pose
des questions, c'est parce que ça m'intéresse. Moi, je trouve ce genre de parcours, je trouve génial à chaque fois des gens qui se lancent et puis ça marche, tu vois. C'est un formidable message d'espoir pour tous les gens qui se lancent et puis ça marche pas.
Un export et c'est bon, les gars.
Allez, hop, vous avez été signé, bam. Après, c'est SoundCloud. C'est vrai que SoundCloud, à un moment donné, c'était très très fort.
Ouais, c'était ça. Moi, je suis vraiment un enfant de cette génération. Hein.
Ouais.
C'était magique. Franchement, c'est une période dorée que je regrette.
Mais genre tous les styles musicaux en plus, tu vois. Donc, mais la question, c'est justement parce que SoundCloud, ils en finissent plus de mourir. De rachat en rachat, de trucs. La plateforme est toujours up, mais j'ai l'impression.
C'est très compliqué. Ils avaient mis en place des modèles payants, si je dis pas de bêtises, qui ont commencé un peu à casser le truc.
Et ils étaient déjà en galère et du coup, il leur fallait.
De toute façon, la plateforme musicien friendly, entre guillemets, aujourd'hui, c'est devenu Bandcamp.
Non, alors justement, stop.
C'est pas exactement la même chose.
Non, mais terminé là.
Ouais.
Bandcamp, ils se sont fait racheter par Epic.
Ah oui, mais Epic Games, c'est merdique. Mais ça, je suis d'accord. Et là, c'est à nouveau revendu.
Et ça a été revendu à Trackster ou Songster ou je sais pas comment ça s'appelle.
Je sais bien, mais en tout cas, le côté.
Et ils ont viré les gens là, ça y est.
Donc, il va falloir voir ce que ça donne effectivement.
RIP, mais
c'est vraiment la plateforme de partage adorée des musiciens, j'ai l'impression, Bandcamp ces derniers temps, quoi. Mais il n'y avait pas avec le même côté réseau social, entre guillemets, que pouvait avoir SoundCloud de...
Ouais. En fait, il y a un truc. SoundCloud a commencé à mourir le jour où ils ont autorisé les reposts dans le stream. Ce qu'il y avait un truc, c'est que SoundCloud, c'était avant les algorithmes. Et en fait, tous les gens que tu suivais, s'ils sortaient un morceau, t'avais tous les morceaux classés par ordre chronologique. T'avais pas de filtre de quoi que ce soit. Tu suivais 500 artistes.
T'avais 500 morceaux.
T'avais 500 morceaux. Et en fait, ça permettait d'avoir un lien super direct avec les artistes et le public. Et moi, à l'époque, du coup, j'avais aussi une grosse pratique du DJing et pour diguer de la musique.
Ouais, bah
c'était fantastique. Tu ratais aucune release. T'as fait que des trucs des gens que tu suivais. T'avais pas tous ces trucs de. Même Spotify, tu vois, ton release radar. Ils essayent en douce de. Moi, ils essayent toujours de mettre un Drake. J'écoute pas Drake, les
mais
gars.
Mais il faut pas.
Laissez-moi écouter la musique des artistes que je vais écouter.
Ouais.
Et.
Donc, dès qu'ils ont commencé à mettre de l'algo là-dedans.
Avant l'algo, ils ont autorisé le riposte.
Ouais.
Et sans limite. Donc,
c'est-à-dire
donc
que par les exemple, artistes que tu suivais,
tu me suivais,
voilà.
Je décidais de riposter 15 morceaux et j'allais riposter
des trucs qui avaient aucun
techno,
rapport,
du dubstep et machin, tu te prenais tout dans ton feed et t'avais pas le moyen de le filtrer. Donc ton feed a commencé à être un espèce d'énorme bazar et t'avais tout et n'importe quoi alors qu'avant t'avais un accès vraiment super direct à la musique que t'aimais. Et en tout cas, des artistes que t'aimais. Et j'ai jamais retrouvé ça en fait.
C'est marrant parce que du coup, dans un monde où on nous explique que justement, L'algo permet potentiellement de faire péter les bulles filtrantes. Toi,
c'est l'enfer.
Il fallait justement, tu voulais rester dans ta bulle filtrante.
En vrai, je pense que mon parcours de l'époque qui est, ça on en a pas trop parlé, mais enfin un truc qui a vachement nourri mon profil au début, c'était les remixes. J'ai fait plein de remixes, pas officiels, des edits, et du coup je les sortais et tout. Enfin, j'avais directement accès à des gens qui aimaient ma musique, tu vois.
Ouais.
Et l'autre truc aussi qui était fou, c'était les commentaires timés.
Ouais. Oui. Donc,
c'est incroyable. Ouais. Tu vois, tu pouvais te dire genre. Bah, tu vois, Caramella, ce qu'on avait entendu tout à l'heure, genre, quand le piano y rentre, c'est fou. Et tu pouvais mettre ton commentaire à ce moment.
Ouais.
Et toi, en tant qu'artiste, quand tu voyais le truc, t'as toujours un espèce de moment, enfin, où t'as les poils du dos qui se hérissent et ça te fout les frissons. Et quand tu vois les gens dire, ah, putain, ce moment magique.
Ouais, ça permet de savoir que ça marche.
Incroyable, tu vois. Et t'avais, enfin, maintenant, la seule façon d'avoir ça, c'est en live. Et je trouve qu'on a remis du filtre entre les artistes et le public. Et en vrai, aujourd'hui, tu veux, bah, ça c'est un autre grand sujet, mais ça a aussi changé ma vie, c'est que maintenant le stream il est sur Spotify, mais est-ce que sans label, sans distributeur qui tient la route, t'arrives à toucher le public? Je suis pas sûr, tu vois, genre, enfin, c'est vraiment assez fou, mais aujourd'hui je peux sortir des, j'ai un nombre de gens conséquents quand même qui m'écoutent sur Spotify, je peux sortir un remix avec un artiste plus underground, ça va pas vraiment être poussé, alors qu'à l'époque de SoundCloud c'est n'importe quoi,
tout ce qui sortait, ça touchait les gens qui te suivent.
Qui te suivent.
Ouais.
Et en fait, en vrai, aujourd'hui, quand t'es un jeune artiste, maintenant t'as. Enfin, il y a 7-8 ans, t'avais plus besoin des labels. Maintenant, si t'as pas un label solide, c'est très très dur d'exister. Après, t'as d'autres biais, t'as TikTok, t'as Insta, mais t'as perdu ce truc de SoundCloud, c'était vraiment un truc fait pour les amateurs de musique, tu vois. C'est pas un format court, c'est le morceau entier. Enfin.
Oui, c'est pas, tu faisais pas de la musique pour une story ou.
Non, et puis t'avais pas l'image. Enfin, c'était vraiment, c'était trop bien. C'était la pochette, la waveform, t'appuies sur play et la musique, quoi.
Il y a l'exemple, notamment dans le rap, mais c'est pas valable que dans ce genre musical, où en fait, des scènes ont émergé de SoundCloud.
D'ailleurs,
qui pour la première fois d'ailleurs étaient un peu, c'était des scènes mondialisées entre guillemets, parce qu'elles étaient plus dans un ancrage local, tu vois, avec un territoire.
Lille Pump, Lille Zan, Lille machin là.
Le New Disco, c'est ça. Hein.
Ouais.
C'est une scène qui vient de là.
Ouais.
Et j'ai oublié, il y a un autre truc qui était fou, c'est que c'était encore l'époque des blogs. Et du coup, le truc génial, c'est que du coup, les blogs, au lieu de mettre un MP3 machin,
oui, ils mettaient
ils incrustaient directement
tous les streams étaient redrivés vers SoundCloud. Et du coup, et ça a tout changé, quoi.
C'est bizarre, hein. Ça veut dire que SoundCloud, vraiment, ils avaient un boulevard et.
Ah non, mais ça a été un truc incroyable. Là si tu regardes d'ailleurs, je sais plus quelle cérémonie des Grammys récemment, où en fait, quand tu regardes un bon nombre de producteurs qui aujourd'hui sont célébrés dans un truc comme les Grammys par exemple, plusieurs ont émergé via SoundCloud. Mmh. En fait, les mecs derrière, ensuite, ont vraiment intégré la grande industrie, entre guillemets, musicale, en ayant émergé à travers SoundCloud. Ça a été un truc extrêmement important, effectivement. Je pense à un mec, alors je sais pas lui s'il exploitait exactement SoundCloud, mais un mec comme Yung Lin, par exemple, clairement, c'est un type qui ensuite influence le rap mondial, et en passant par Internet, et je crois en partie par SoundCloud.
En vrai, tout le monde qui a émergé entre 2010 et 2015,
c'est quasiment SoundCloud.
Après, il y a eu aussi le phénomène des chaînes YouTube,
c'est
l'autre truc parallèle. Mais SoundCloud, c'était énorme.
Juste pour revenir un peu toi sur ton expérience, donc ok, on comprend que tu fais le DJ, mais de manière semi-pro entre guillemets dans un premier temps.
Ouais, c'était vraiment
voire amateur.
C'était vraiment pour gagner. Tu vois, c'était les cachets à l'époque. C'est, je sais pas si on a le droit de parler d'argent. Donc
bien sûr,
au contraire, on adore ça.
tu jouais 4 heures, on te filait 80 balles, tu vois.
Ouais. Ah ouais.
Donc t'en fais un ou deux le week-end. Enfin, après moi, quand je suis étudiant, je suis trop content, tu vois. Je peux m'acheter une paire de baskets et puis aller au resto. Et puis voilà, quoi, c'est cool.
Et derrière, tu dis qu'il y a les remixes avant ce premier. Est-ce que c'est avant justement ce premier morceau? C'est-à-dire que tu as commencé comme à produire, parce que c'est produire aussi de la musique, de faire des remixes.
Oui, bien sûr.
C'est avant Horizontal Disco?
Non, c'est juste après.
C'est juste après.
En fait, j'ai fait ça et puis je me suis dit que j'allais. Enfin, c'est vraiment, c'est bête, mais tu vois, c'est pour les DJ sets, je me suis fait des versions dans ma vibe. Et t'avais, avec SoundCloud, t'avais aussi beaucoup cette culture du remix, de l'edit et de la mixtape. Ouais. Ça, c'est le troisième élément dont on n'a pas parlé encore, qui a été fort pour moi au début, c'est que, bah, clairement, c'était ce que faisaient Aeroplane et The Magician, ils faisaient des mixtapes tous les mois. Et je me suis dit, je vais faire pareil, tu vois.
Dans lesquels ils intégraient leurs propres morceaux et des morceaux d'autres personnes.
Ouais, c'est en gros tout ce qu'ils ont kiffé le dernier mois, mais mixé, quoi. Et moi, je me suis pris la tête de fou là-dessus pour vraiment faire des espèces de voyages où enfin tout était mixé in key, enfin je trouvais les clés de tous les trucs et tout, et vraiment enfin je les faisais j'aurais pu les faire sur les platines, mais je les faisais dans Ableton pour vraiment faire des trucs mais ultra sharp avec des shifts de tonalité pour que tout s'intègre trop bien, et je diguais énormément. Et en fait j'ai fait ça genre tous les mois, je pense de 2011 à peut-être 2015. Et à la fin, c'était vraiment devenu un truc énorme. Tu vois, sur SoundCloud, celle qui a le mieux marché, elle a dû faire 250 000 écoutes. Enfin, c'était vraiment les gens. Et du coup, j'ai été booké en DJ grâce à ça. Mais en fait, c'est ça qui m'a mis dans le circuit DJ avant la prod. C'est vraiment. Et j'ai eu quelques remixes aussi qui ont super bien marché. J'ai fait un truc, un remix pour de Tina Turner, What's Love Got to Do, qui a fait plus d'un million sur SoundCloud. Un truc de. Elle a en français, Everybody Dance de Chic, enfin pas mal de trucs, un Jenny Chandler aussi, qui a un peu moins marché, mais pas mal de vieux morceaux disco. Et
tout ça diffusé uniquement via SoundCloud à l'époque.
Ouais, free download, c'était vraiment le truc à l'époque, téléchargement gratuit, et puis fallait liker ou machin, mais ouais. Téléchargement gratuit.
Il n'y avait pas des problèmes de droit parce que SoundCloud à un moment
non,
donné.
Parce que tu ne gagnes pas d'argent. C'est gratuit.
Ouais, mais enfin, moi je sais que des fois je postais des trucs avec des samples un peu trop cramés et le morceau il se faisait striker en fait.
C'était avant, franchement c'était un peu l'époque.
C'est un peu le Far West à ce moment-là, il n'y avait pas trop de.
Tu vois, ça c'est 2012, 13, 14 ouais, en gros. Okay, et à cette époque-là.
Ouais, ils se posaient pas de questions.
Mais le revers de la médaille, c'est que tu faisais 1 million de streams sur SoundCloud, qui est énorme, mais t'avais
zéro thune. Ouais.
Mais tu tournais en tant que DJ.
Donc c'est cool.
C'était extraordinaire. Hein.
Et c'est ça qui. Les premiers sous un peu plus sérieux, entre guillemets, que tu gagnes dans la musique, c'est justement parce que tes remix, tes mixtapes, tes sets sur SoundCloud te permettent de commencer à être booké pour des soirées avant l'aspect production où tu commences à gagner de l'argent avec tes propres productions. C'est vraiment
le côté. Complètement. Ouais. En fait, c'est un espèce de. D'enchaînement des choses où il y a ce premier truc qui sort et en fait, c'est assez régulier, c'est quasiment tous les mois, il y a soit une mixtape, soit un remix. Donc en fait, quand t'entretiens, enfin c'est un peu pareil. Quand des producteurs me demandent comment se lancer, c'est ça. C'est qu'au début, en fait, il faut être actif, il faut
c'est
avoir
le modèle de flux, en fait, mettre en avant les plateformes.
Ouais, il faut avoir de la matière à proposer. Et en fait, tous ces jalons musicaux font que tu construis une identité, un son, et que en plus, moi, c'était entre guillemets facile, mais c'était vraiment dans cette scène new disco. Et ça, c'est l'autre truc qui est génial, c'est quand t'es dans une scène musicale, en fait, t'as des artistes à qui parler, c'est les gens qui sont bookés dans les soirées, du coup, tu vas les voir en soirée, du coup. Ce qui s'est passé en parallèle, c'est que très vite, j'ai trouvé un manager qui, du coup, m'a fait faire les premières parties de ces artistes, en fait. Okay. Donc, tu les rencontres.
Là, en DJ set ?
En DJ, ouais.
D'accord. Et c'était une volonté de ta part. Tu t'es dit, il me faut un manager, ou c'est encore une rencontre qui s'est fait au pif, tranquille.
C'est marrant. C'est un autre DJ qui jouait dans les. En fait, c'était une chaîne de pubs à bière où il y en a 7-8 à Paris. Je vous laisse essayer de trouver où c'est. Il y en a.
C'était O'Sullivan's.
C'était pas celui-là.
Ah oui, d'accord. Ok. Non, attends.
Mais,
The Frog.
Ouais, c'est ça. Okay. Si en 2010 vous étiez en train de boire des pintes au Frog de
Bercy Village.
Bercy Village.
Ah oui, c'est vrai.
Trocadéro.
Ouais, j'y suis déjà allé.
Bibliothèque François Mitterrand. Dans un coin, il y avait un petit Zimmer qui passait des disques.
Ok, très marrant.
C'était franchement une super école. Et en fait, il y avait un autre DJ qui faisait ça. Et en fait, l'agence qui bookait tout ça a fait un dîner dans un Frog avec tous les DJ qui bookaient dans les Frogs. Et en fait, c'est marrant, il y avait que des gars qui n'auraient pas trop parlé. Et je vois un mec qui est un peu sapé, machin et tout. Donc, je veux pas dire que je suis bien sapé, tu vois. Mais bon, en tout cas, on avait le même style, tu vois. Et on commence à se parler, et en fait, on aime les mêmes trucs et tout. Et lui, il est un peu plus vieux, il organise aussi des soirées. Et je sais pas, on reste en contact, j'envoie de la musique. Et il avait envie de se mettre au management, du coup, il me propose, tiens, si tu veux, je peux te filer un coup de main avec ça, quoi.
Donc c'est encore des rencontres.
Ouais,
des...
exactement. Mais c'est la base de tout, quoi.
Et c'était qui ce manager? C'est quelqu'un qui t'a travaillé sur longtemps?
C'est Thomas Lénier, qui est Big Up Thomas. Si tu me vois, qui est à Londres, qui a un super label qui s'appelle Burning Music. Okay. Maintenant, il est plus côté label, mais il a. Enfin, c'était plus du booking et du management, mais ça a été plus du booking, mais. Oui, il y a eu quelques années où ça s'est bien passé, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup, lui apprenait ce métier de manager et se développait là-dedans. Mmh. Il passait du rôle d'organisateur de soirée à ça, et on s'est un petit peu développé ensemble. Okay. On a dû travailler ensemble deux, trois ans, je crois. Peut-être trois ans.
Et est-ce que en parallèle, ta carrière de DJ commence vraiment à prendre un essor petit à petit? Est-ce que tu te dis, je vais mener une carrière dans la production? Tout de suite, tu te dis, voilà, il y a le côté DJ, il y a le côté aussi compositeur.
Pour moi, c'est la même chose en fait.
C'est vrai.
Ouais. En plus, on était vraiment à l'époque où on disait, où le terme que j'aime pas trop, c'était DJ producteur. DJ slash producteur. Ouais. En fait, les mecs que j'écoutais avant de découvrir la New Disco, qui était le côté visible de l'iceberg, qui était, tu vois, Bob Sinclair, Martin Solveig, Antoine Clamaran, Guetta, machin, enfin Joachim Garraud, tous ces gars-là, en fait, ils se faisaient appeler comme ça. Et en fait, pour moi, c'était une évidence que, en fait, oui, t'es DJ, t'es producteur, c'est... Enfin,
oui, c'est complémentaire, en fait.
C'est la même chose. En fait, juste DJ, c'est la façon de te produire. Enfin, t'es pas chanteur, donc tu joues des disques, en fait.
Est-ce que... Mais c'est... Pour toi, ça va quand même souvent de pair, le fait d'être DJ et de composer de la musique? Si on met de côté le terme producteur, composer de la musique?
Oui et non.
Ouais.
Parce que, ouais, il y a peut-être plus le côté edit remix. Après, c'est un petit peu la même chose, mais... Et pour le coup, dans la deuxième partie de ma carrière, entre guillemets, j'ai plus pris... Enfin, je suis moins DJ, je suis plus artiste-musicien, avec un format à faire des concerts, des lives, sortir des albums. Mais pour moi, les deux sont intimement liés. Enfin, c'est la même pratique, tu vois. En plus, à cette époque, en fait, j'étais enfin, vraiment, les planètes se sont super bien alignées, on va pas se mentir. J'étais en dernière année d'école de design, et en dernière année d'école de design, tu fais ton projet de diplôme. En fait, ce qui veut dire qu'on te laisse tranquille, t'as pas cours. Mmh. En gros, tu as des jalons tous les mois ou tous les deux mois où tu dois présenter à tes profs l'avancée de ton projet. Mmh. Autant te dire que j'ai passé...
Ça a été mis à contribution.
Un an entre SoundCloud et Ableton, et je faisais que ça, tu vois. Je me réveillais, j'écoutais tout ce qui était sorti nouveau sur SoundCloud, je passais deux heures à diguer et tout. Je passais l'après-midi à faire du Ableton, à essayer des techniques, et c'était trop bien, quoi.
Mais justement, comment t'as... Alors déjà, première question que j'avais, enfin, 157e question que j'avais, ton nom de DJ et ton nom d'artiste, c'est le même? T'étais déjà Zimmer à l'époque ou t'étais DJ quelque chose?
Alors, pour la petite histoire...
Vas-y, ça va être honteux, c'est ça?
Non, non, c'est pas honteux, mais en fait, quand je mixais avant, j'utilisais Zimmer comme un patronyme. Donc je disais Baptiste Zimmer.
D'accord.
Et en fait, Baptiste Zimmer, c'est imprononçable.
Ouais.
Baptiste Zimmer, c'est super dur à prononcer.
Par contre, tu viens du pays de Thomann, quoi, les Allemands.
Exactement. Et du coup, en fait,
j'ai calé Thomann.
Il est bon. Et en fait, du coup, au moment où j'ai fait ce fameux cruising, mais vraiment, c'était ça, tu vois, j'étais genre export, et j'étais là, genre.
Comment je m'appelle ?
J'ai trouvé ce nom cruising, et j'étais là, mais genre Baptiste Zimmer cruising, ouais, c'est claqué, quoi.
Ouais.
Et je me suis dit, mais je vais juste prendre Zimmer tout seul, ça veut tout dire et rien dire, c'est cool, quoi. Et voilà. Ouais.
T'avais conscience que Hans existait déjà à ce moment-là?
Pas du tout.
Est-ce que tu le regrettes aujourd'hui amèrement, tellement on doit te rappeler sans cesse?
2011, on avait déjà Inception, tu vois, les points.
Inception, t'es ouf ça.
Ah si?
Non, c'est après.
Non, 2010,
ah ouais.
Inception.
Attendez.
Ah ouais,
2010, Inception.
Ah ouais, 2010.
Donc il était déjà très connu et t'as pas eu conscience. Parce qu'aujourd'hui, une fois sur deux, quand tu lis ton nom, on te dit Hans.
Ouais. Non, mais en fait, il y a eu des phases, tu vois. J'ai détesté ça pendant. Enfin, au début, j'avais pas compris, tu vois.
Ouais.
Et puis en fait, enfin, faut remettre les choses dans son contexte, tu vois. À ce moment-là, moi, je suis étudiant en école de design, je fais un morceau pour rigoler, tu vois. Enfin, jamais de ma vie, je pense que ça va être ma carrière après, tu vois. Ah non, mais c'était, moi, j'étais à des années-lumière. Pour moi, la musique, c'était mon hobby, tu vois. C'était pour rigoler.
C'était quoi justement à ce moment-là, ton plan, donc école de design, pour faire quoi comme
Ouais, il y avait quand même la musique, parce que ton stage de fin d'études, il est lié à la musique.
C'était un an avant. En fait,
Okay.
En fait, j'ai grandi à Annecy, une petite ville dans les Alpes, où on parle pas vraiment de musique, tu vois. C'est vraiment arrivé quand j'ai commencé mes études à Paris. Et en fait, je me suis dit que j'avais envie de travailler autour de la musique, et je me suis dit que j'avais envie d'imaginer du matériel pour musiciens. Et en fait, du coup, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Native Instruments à Berlin. Designer pour les platines. Enfin, platines, table de mixage. Enfin, c'était plutôt des contrôleurs et le côté logiciel. Mais du coup, c'était... Et en vrai, j'étais trop content, tu vois. Enfin, d'avoir ce stage, c'était un truc de fou.
Ouais.
Et j'étais arrivé, tu vois. J'étais genre, c'est mon job de rêve, c'est ça que je veux faire.
Ouais.
Franchement, c'est extraordinaire.
T'as validé le cursus quand même? Ouais. Ou du coup, t'as été tellement pris par...
Non, j'ai fini master de design industriel.
Déjà, c'est bien, n'abandonnez jamais vos études.
Non, vraiment. Et en plus, mes parents m'en auraient terriblement voulu, quoi. J'étais un garçon sage, tu sais.
Mais d'ailleurs, parce que tu dis que tu viens d'Annecy, mais t'as eu quand même un passage aussi aux États-Unis qui a joué aussi, je pense, sur ton rapport à la musique, comment t'as développé ta carrière derrière, ne serait-ce que le fait d'être anglophone, etc.
C'est sûr que, comme on disait un petit peu avant l'interview, en fait, ça m'a aidé à voir au-delà des montagnes, tu vois. Tout de suite, en fait, même mes premiers souvenirs de vie, on a déménagé quand j'avais 3 mois, donc mes premiers souvenirs sont aux États-Unis. Ma mère me parlait anglais, mon père français, donc j'ai même, paraît-il, dit mes premiers mots en anglais.
Okay.
Mais du coup, tout de suite, en fait, tu sais qu'il y a autre chose. En fait, je pense que surtout, ça a éveillé ma curiosité, en fait, et mon envie de découvrir des choses et de tirer le fil, en fait. Enfin, tout ce qui s'est passé dans ces histoires de production, de DJ et tout, c'est qu'en fait, je me suis jamais dit « Ah, mais en fait, ça, c'est pas... » Enfin, si, je me suis dit que c'était pas pour moi, mais que je pouvais... Mais quand même...
Mais t'as quand même essayé.
J'ai quand même essayé, tu vois. Ouais. J'ai tiré le fil, j'ai essayé de le faire le mieux possible. Et je pense que d'avoir deux cultures comme ça, c'est vraiment une chance pour ça. Ça t'ouvre tes œillères, en tout cas.
Non, c'est... Oui. Ouais, c'est bien d'y aller. Enfin, je trouve que la démarche d'aller dans un domaine sans complexe, tu vois, parce qu'on parle souvent du syndrome de l'imposteur et tous ces trucs-là, mais du coup, ça peut même te paralyser et t'empêcher de faire des choses alors que tu testes. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, au pire, tu designeras des trucs chez Native Instruments.
Ce qui est déjà cool, franchement.
J'étais tellement content. T'as pas été franchement le jour où j'ai eu le stage.
Ouais, bah non, c'est ouf, ouais.
Et en fait, c'est marrant parce que j'ai appliqué...
Un peu cher, mais bon, c'est ouf.
Ça va encore, franchement, le système tracteur, c'est rentable par rapport à ce que ça fait.
Moi, je regardais les machines.
Ah oui, machines. Oui,
tu me disais combien ils payaient les gens. C'était le stage le plus mal payé de. Je bossais comme un ouf. Après, c'était un stage, quoi, mais c'était 300 balles par mois. Tu vois. Tu peux même pas vivre. Enfin, Berlin en 2011, c'était pas cher, mais.
Ouais, mais quand même, ouais.
Ouais, c'était un peu dur. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai appliqué la même méthode que pour écrire à Moulinex, à Van Brax et tout. C'est en fait, je l'aurais fait. Et ça, c'est le meilleur conseil si vous voulez avoir un stage dans un endroit. Je leur ai fait un produit, en fait. J'ai imaginé un produit en me disant, tiens, il y a ce trou dans le marché, et j'aurais fait une présentation de 6 pages, j'ai fait des 3D, machin, un petit truc marketing, la cible,
la déterre quand même. Hein, c'est...
Ouais, mais j'ai passé un mois.
Ah oui, voilà.
J'ai fait que ça, j'ai fait une candidature.
Tu l'as eu.
Et je l'ai eu.
Et t'aurais visé qui d'autre si t'avais pas eu Annie?
Ça aurait été un peu mal barré, quoi. Parce que j'ai le moment du stage arrivé et...
Bah après, en France, il y a une belle marque, il y a Arturia, mais je sais pas à l'époque comment ils étaient placés.
Il y a une autre marque dans le DJ.
Si.
Mais à l'époque, j'étais vraiment... Enfin, tu vois, c'était... La prod, c'était les balbutiements. Enfin, quoi que j'avais... Je crois que j'avais postulé chez Ableton aussi, en vrai.
Ouais.
Et tu vois, ça commençait. Après, en France, il y a une boîte qui s'appelle Mix Vibe, qui fait un logiciel DJ qui s'appelle Cross DJ, qui à l'époque était un bon concurrent de Traktor, et qui développait Recordbox pour Pioneer. En fait, à la fin de mes études, j'avais postulé chez eux en backup de Native. Et finalement, le même jour, j'ai eu une proposition de vrai job chez Native et chez Mixweb. Okay. Mais Mixweb était à Paris. Et c'était le moment où ça a commencé à cliquer. Et du coup, je me suis dit, je vais rester à Paris. Okay. Donc j'ai bossé aussi dans cette boîte qui s'appelle Mixweb.
On précise d'ailleurs, juste, on va parler de Traktor, Recordbox, etc. C'est des solutions, en fait, que proposent les marques Native, la pionnière pour Recordbox, qui mélangent à la fois, parfois, des contrôleurs hardware, c'est-à-dire physique, mais surtout, c'est un logiciel qui permet de mixer.
Des séquenceurs et des trucs de mix, ouais. Akai a fait ça aussi, hein.
Ah ouais, ils ont un système de DJ à Akai.
Justement, là j'ai vu qu'ils avaient présenté l'APC 64, donc
ouais, mais c'est pas pour les DJ.
Non, c'est pour Ableton.
Non, ça c'est pour Ableton.
Ouais, 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 ok, d'accord.
Ouais. Ah oui, non, des trucs
je pensais vraiment dans le domaine DJ. Non, bien sûr. Même tout le monde a leur petit soft, etc. Enfin, après, ça peut s'intégrer, tu sais, au sein d'un séquenceur. Mais typiquement, quand tu utilises machine, par exemple, pareil avec Native, il y a un soft machine spécifique que tu peux utiliser en standalone, en plus, si je dis pas de bêtises. Ouais, effectivement.
Akai a fait ça avec la MPC. où ils ont sorti le soft MPC.
Après, c'est souvent chiant, c'est d'ailleurs.
C'est des trucs de prod, ça. Ouais. Enfin, là, oui, c'est vraiment... En DJ, les concurrents à l'époque, c'était Serato.
Oui, bien sûr.
Et qui d'autre? En gros, oui, c'était Serato, Traktor, et Rekordbox est arrivé après, quoi. Parce qu'à l'époque, Rekordbox, c'était juste un logiciel de préparation pour les clés USB. Tu pouvais pas mixer avec.
D'accord.
On va loin, là.
tu disais tout à
c'est
l'heure...
C'est la digression, c'est normal.
Tu disais tout à l'heure que...
Je comprends pourquoi vos émissions sont
longues. Mais c'est très préparé tout ça, je suis désolé. Tu disais que ça allait un peu de pair pour toi, le fait de composer de la musique, d'être DJ, etc. dans ta pratique. Est-ce que, à ton avis, c'est un truc qui est commun à beaucoup de DJ? Parce qu'on a quand même en tête, en tout cas à une époque, le DJ qui est avant tout l'animateur de soirée, entre guillemets, tu vois, qui produit pas forcément de la musique sous son nom en parallèle, release des albums, etc. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même un changement culturel assez important, du moins parmi les stars, on l'a observé, tu les as cités tout à l'heure, les Guetta et compagnie.
Bah, cite-moi même un DJ.
Qui aujourd'hui n'est plus que DJ.
Qui a fait carrière en étant que DJ, mais genre zéro prod.
Bah, en vrai, Laurent Garnier, c'est plus un DJ qu'un producteur. Il a sorti des disques, mais sa force, c'est que c'est un excellent DJ plus qu'un excellent producteur.
Ouais, mais je pense que pour toucher vraiment
le grand public,
il faut que tu vois que t'aies des prods originales, parce que tu vois, dans le rap des DJ on a eu des milliards,
moi je trouve qu'il y a une époque où tu pouvais le faire, typiquement à l'époque de Garnier. Après, tournant des années 2010, tu étais obligé de produire. Mmh. Et maintenant, on revient à un truc où il y a tellement de producteurs
que
tu peux être un bon DJ et avoir un ou deux edits et sur un malentendu. Enfin, pas sur un malentendu, mais...
sur un bien entendu, du coup.
Non, ou sur une boiler room qui marche bien.
Ouais.
Enclencher un...
Non, alors...
Enfin, dans le circuit DJ.
Alors,
ça existe,
voilà.
T'en as pas.
Alors, dans le circuit DJ, ouais. Mais je veux dire, là, on est sur un truc spécialisé. Mais est-ce que tu peux faire un genre breakthrough, toucher le grand public en étant que... Je schématise et c'est très, très... que pousseur de disques?
Après, il y a une différence entre avoir une carrière et tourner dans des clubs, même à l'Inter, et toucher le grand public. Tu vois.
Ouais, je suis d'accord.
Ouais.
Bien sûr.
Oui, voilà. Mais c'est-à-dire que tu peux être dans ce milieu qui est
vivre de ta musique, respect, mais sans
en vivre, etc. Mais
sans t'exposer,
sans que les gens te reconnaissent. Parce que moi, j'ai pas vraiment de nom de pur DJ, 100% DJ, et que DJ qui viennent comme ça quand...
C'est, si on prend dans le rap, des gens comme Code Killer, DJ Abdel, alors certes, ils ont produit, mais...
Code Killer, il a produit de ouf.
Bien sûr, mais j'ai l'impression quand même que ce qui va rester, c'est vraiment le côté DJ, non? Ou je dis une bêtise?
En fait, DJ au sens technique,
donc
vraiment maîtrise des platines, scratch, etc. Mais Code Killer, quand est-ce qu'il a commencé à cartonner? C'était avec les hip-hop Soul Party 1, 2, 3, 4, 5, et il y avait des prods originales.
Oui, c'est vrai.
Après, tu l'as... Je trouve la techno, c'est un bon exemple pour ça, parce que tu vois une artiste comme Amélie Lance ou Charlotte DeWitt,
qui sont les stars actuelles,
qui sont quasiment les plus fat DJ techno aujourd'hui. Mmh. Bah, en vrai, tu connais aucun morceau d'Amélie Lance ou Charlotte DeWitt, mais tu connais Amélie Lance et Charlotte DeWitt, et tu sais que sur une main stage de festival de 25 000 personnes, ça va être trop bien. Mmh. Du coup, en vrai, dans la techno, t'as ça, quoi, je trouve. Même si pour le coup, c'est. Elles produisent de la musique, tu vois.
Ouais.
Mais, et en même temps, la techno, c'est un genre où tu peux difficilement avoir du succès commercial, tu vois. Là où, par exemple, Peggy Gou, qui est plus sur de la house, a quasiment le même succès en termes de DJ, mais il y a des morceaux iconiques parce que c'est de la house, tu vois.
C'est intéressant, la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, parce qu'on parle, en fait, du fait que... Bah que les DJ sont des musiciens, d'une certaine manière. En tout cas, que tout ça... Il n'y a pas de séparation claire, tout ça est intégré. Et c'est rigolo parce que nous, ça arrive régulièrement quand on parle de DJ dans nos différents contenus sur Monte le Son. On
dit que c'est pas des musiciens.
Et ben, il y a ce truc qui revient de temps en temps. Je sais pas si t'as déjà entendu ce discours.
Ah, mais moi,
d'une forme de mépris, même parfois, vis-à-vis des DJ quand même. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un truc que t'as pu observer? Quel est ton regard sur tout ça?
En fait, il y a plusieurs types de DJ, entre guillemets. Il y a un DJ qui va jouer sa musique et qui va avoir une proposition artistique, et il y a un DJ qui va.
Enchaîner les hits.
En fait, ça dépend du contexte, tu vois. C'est moi dans ma carrière, c'était même pas ma carrière, c'était mon job étudiant avant. Mmh. Mais là, tu fais les deux. Tu vas pas, quand t'es booké pour jouer à un anniversaire.
Oui, tu vas pas être trop pointu.
En fait, c'est alimentaire, mais en fait, le DJ pour moi, il devient artiste au moment où il arrive avec une proposition artistique et on lui laisse la chance de jouer la musique qu'il a envie de jouer. Mmh. Et moi, c'est pour ça que je suis devenu producteur, c'est parce qu'en fait, j'ai essayé de rentrer dans le circuit, parce qu'en fait moi j'avais pas envie de jouer au Frog, hein. C'est marrant le Frog.
Ah bon.
t'as un burger gratuit, tu vois, mais j'avais envie de jouer au Social Club, tu vois. J'avais envie de jouer, faire les premières parties des gens que j'aimais, et j'ai essayé, hein, t'inquiète, hein, j'ai envoyé des CD, des démos, enfin j'ai tout fait pour essayer de rentrer dans les clubs. Franchement, du haut de ma naïveté de mes 22 ans, j'ai envoyé des CD démos où vraiment j'avais fait des mix, tu vois. J'avais collé ma tronche dessus et il y avait écrit, je pense même qu'il y avait écrit DJ Zimmer. Il y a le tracklisting et je leur disais, est-ce que je peux jouer dans votre club, tu vois. Et j'ai écrit à tout le monde. Et mais ils m'ont même pas dit non, ils m'ont même pas répondu, tu vois. Et parce qu'en fait, le produire de la musique, ça te permet d'arriver avec une proposition artistique et en fait,
ça fait la diff en fait.
C'est la seule solution pour jouer dans un club. Enfin, c'est vraiment ça. C'est un club à programmation, ou un club ou un bar, où on s'en fiche. Mais t'as même des bars à programmation ou des. En fait, la seule question pour le DJ, c'est est-ce que il a la liberté de proposer ce qu'il veut, ou est-ce qu'il joue la musique que le patron de l'établissement dans lequel il joue demande de jouer, quoi.
Je pense que c'est juste ce que tu dis. Il faut séparer les pratiques. En fait, DJ, c'est un mot qui englobe tellement de pratiques extrêmement diverses. C'est-à-dire, tu vas voir les mecs techniciens, tantablisum, etc. Tu vas voir les mecs effectivement qui animent les soirées. Tu vas voir les types. Je prends cet exemple parce qu'on est en train de faire un contenu en ce moment sur les 50 ans du hip-hop et on reçoit beaucoup de DJ pour parler de ça et qui racontent que spécifiquement dans le hip-hop, par exemple, c'est pas exactement la même chose qu'être DJ pour des battles de rap, pour des danseurs, et c'est encore des pratiques différentes. Tu t'adaptes différemment, etc. Donc c'est un univers en fait extrêmement varié avec des gens qui n'ont pas la même ambition, la même envie, etc.
C'est très réducteur de limiter le truc à c'est un mec derrière des platines, tu vois. Mais c'est comme de pilote automobile. Tu peux être pilote d'Austin Mini ou pilote de Formule 1 et entre les deux, tu vois, t'as quand même une gamme de produits différents et c'est pas le même taf, même si ça consiste à peu près en la même, enfin c'est à peu près la même activité, quoi.
On parle d'un outil.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, en fait, DJ, c'est la personne qui utilise des platines. Mais du coup, derrière un outil, enfin, c'est comme quelqu'un qui utilise un Do, quelqu'un qui utilise Ableton, il peut faire du slam, il peut enregistrer un groupe de rock, il peut faire de la musique symphonique, il peut faire de la prod de techno.
Ou pour prendre un exemple parlant, tout comme l'autotune est un outil et que certains vont le pousser à fond pour en faire une proposition artistique et esthétique, d'autres à l'inverse, c'est juste pour corriger la note. Et ça n'a aucun sens, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on défend en général, de dire l'autotune c'est de la merde. Non, ça dépend de ce que t'en fais, mon gars, tu vois, arrête de critiquer l'outil.
C'est clair. Et en plus, dans les DJ, enfin, on oublie souvent un truc. Et enfin, je l'ai pas mal entendu en plus en début de ma carrière que c'est facile, tu fais qu'enchaîner les disques des autres. Ouais. En fait, pour avoir un morceau bien que tu vas jouer, en vrai, je pense que le ratio c'est 1 pour 500. Donc t'entends 500 morceaux, tu vas en télécharger 50, tu vas en mettre 10 sur ta clé USB et tu vas vraiment en jouer un. Ouais. Donc en fait, va te farcir d'écouter 500 morceaux.
En fait, c'est ça, c'est en fait les gens curation,
oublient, disent, c'est trop facile, tu joues la musique des autres.
Non.
Genre en fait, dans un set, tu joues, je sais pas, si tu joues 2 heures, tu vas jouer 30 morceaux. On a fait le calcul, 30 fois 500, en fait, il faut avoir une sacrée passion. Parce que la musique, au bout d'un moment, tu écoutes 500 morceaux, tu l'as vomi, la musique, t'en peux plus. Donc, en vrai, les diggers qui sortent vraiment des trucs de fou, franchement, respect. Hein. Enfin, il faut avoir la patience. Et en fait, ça prend du temps. Hein. Enfin, tout le monde dit toujours, il faut écouter de la musique. Enfin, où est-ce que dans ta journée, tu trouves le temps d'écouter autant de musique? Enfin, c'est un taf, en fait.
Bien sûr. J'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu à l'aspect compo, production en parallèle du côté DJ. Peut-être qu'on peut d'ailleurs s'écouter quelques titres à toi dont t'es assez fier, que t'as envie qu'on s'écoute pour avoir une idée un peu de ta musique. Ou peut-être même d'ailleurs peut-être deux titres par exemple, un qui représente peut-être ton identité à un moment et où t'as l'impression d'avoir évolué depuis, et peut-être sur ton dernier album tu vois un truc où tu dis c'est peut-être plus moi aujourd'hui, tu vois, je sais pas si ça t'évoque quelque chose.
Ouais, on peut, sur le dernier disque, on peut commencer par écouter Dany.
Qui est le morceau d'ouverture de ton dernier album, Amour. C'est parti. Daz, on va clubber après.
Je suis chaud. Peut-être je pourrais rentrer si je connais le DJ.
Nous en veux pas, on avance un peu, Baptiste.
Vas-y, bien sûr.
T'as peut-être un refrain. Voilà.
Ça sonne bien,
le refrain.
À quoi ça ressemble ? Allez, on met pas plus, parce que après, on a des problèmes, même si c'est ta musique, on a des problèmes de droit après sur YouTube, tu vois. C'est pour ça qu'on met des extraits pas trop longs. Donc, ça, c'était Dani avec The Undercover Dream Lovers. C'est ça que c'est ceux qui font les voix.
Qui est un chanteur de Los Angeles.
Très bien. C'est un truc qu'on retrouve pas mal dans ta musique, les voix, alors pas toujours, mais t'aimes bien faire appel à des gens. Je me suis demandé d'ailleurs si parfois toi tu chantais aussi sur tes propres morceaux, c'est déjà arrivé ?
Il y a deux morceaux du dernier disque où c'est ma voix qui sont Habibi et Afterlife.
Et on est vers la fin de l'album, et tu sais quoi ? D'une part, je te le disais avant l'émission, que je préfère vraiment cet album à ton premier. Je l'ai trouvé très cool. Et j'aime en particulier, c'est marrant parce que j'aime le début de l'album et j'aime la fin de l'album. Et en fait, à la fin, il est plus techno aussi, un peu plus, tu vois, ça me parle plus. Et oui, il y a vraiment ce côté, j'adore l'ouverture et j'adore comment il se clôture aussi. Je sais pas si c'était voulu ou si c'est purement subjectif, c'est moi qui veux.
Non, mais je pense, enfin, moi j'aime bien les intros et les conclusions.
Ouais. Donc, ok.
C'est pas même en DJ, j'essaie toujours de réfléchir à ce que je vais jouer au début et à la fin. Ouais. Le live, c'est pareil. Donc, je pense que c'est là où je me prends le plus la tête, quoi. Ouais. Je dirais.
Oui, après le milieu, bon.
Hein. Ouais, les gens sont là, tu vois.
Ouais, ils vont pas partir, donc.
Non, mais tu sais pourquoi, en fait, parce que l'album. Tu sais quoi, mettons si tu veux bien, un morceau peut-être plus ancien. Peut-être un de. Si, moi, je sais sur quoi. Ce qu'on pourrait mettre. Sur Cérémonie. Parce que t'avais eu un gros tube. Attends, où je confonds, c'est pas sur Cérémonie. C'est lequel ?
Lost Your Mind qui a bien marché. T'as Moonrise sur le P d'avant qui a bien marché aussi.
Ouais, Lost Your Mind, effectivement. Je pense que c'est celui-là auquel je pense. Qui est très, très estival, avec une voix féminine dessus, etc. C'est celui-là ou pas ?
Non, il est un peu triste en vrai, Lost Your Mind. Non, t'as Escape, mais c'est vraiment pas ce que je préfère de ma discographie en toute honnêteté.
Okay,
c'est un peu de la house avec une chanteuse avec une très belle voix, mais c'est vraiment plus que je
ça dérange juste si on met quand même un extrait pour voir l'évolution un peu, tu vois.
Ouais, toi, aussi, sympa, en vrai, plus vieux, t'as un morceau qui s'appelle Galapagos qui
préfère déjà.
Ouais, qui est plus. Qui est pour
l'artiste,
un peu
il te dit ouais, j'aime pas trop. Ok, ben on va s'écouter celui-là.
Non, mais c'est intéressant en fait de voir le. Enfin, je sais pas, bref, ok, ouais, Galapagos.
Galapagos, pour le coup, ça a 10 ans et c'est un peu le pic de cette époque nu disco dont on parlait au début.
Ok, et ben c'est parti, Galapagos, Timmer.
Tu vois, c'est bien daté aussi quand même. C'est Cruisine en mieux produit. En
ok.
Ah, tu peux avancer un peu.
Il aime bien les intros.
J'adore. Si vous trouvez le sample de voix, vous êtes des boss. Hein.
Ah!
Oh, le défi.
J'avance encore un poil.
Faut que je le dise en antenne en plus parce que pour le coup...
Tu l'as pas clairé.
T'avais pas le droit.
j'ai prononcé cette phrase et je me suis dit merde.
Non, après en même temps, il est...
Oui,
ça va, c'est
du droit de citation.
Très peu de secondes, ouais, ça va, tu vois.
On va pas prendre de risque.
C'était parce que j'ai pas entendu même Holiday de Madonna dans le truc, non
c'est pas Madonna.
C'est pas Madonna. Attention parce qu'ils appellent tout de suite si c'est Madonna.
Ouais,
où sont les sous?
Non, parce qu'en plus c'est sorti en gratuit et après on l'a sorti sur une compil rush, donc
okay. Ouais.
Là il est en. Il génère des droits, donc on peut rien dire.
Ok, on dira rien.
En tout cas, dans ta musique, il y a vraiment ce côté. Des fois, on est vraiment dans de la musique électronique pure et dure, entre guillemets. Et l'autre fois, on est vraiment aux frontières de la pop, très clairement. Le côté, effectivement, toute cette vague qui est un peu vieillie aujourd'hui, effectivement. Tu parlais du terme tropical tout à l'heure. Il y a ce côté de ces traits.
Alors, là, c'était la mode. Sur Galapagos,
on l'entend complètement. Ouais. Rien que le nom, Galapagos.
Que des marimbas.
Mais, voilà, ouais. Tu vois. Avec une petite voix de meuf, un peu. peu stylé où t'as l'impression que c'est pour l'été, tu vois, que enfin, tu bois avec ton verre et tout.
De base, les îles Galapagos, on se fait chier quand même.
C'est vrai, c'est possible.
Ah, y a rien, c'est des rochers avec des lézards. Hein,
mais c'est pas ce qu'il avait en tête quand il a appelé.
C'est pas la Barbade, c'est pas les Bermudes, hein, les Galapagos, vraiment.
T'as choisi au hasard Galapagos, tu te dis, ah ouais, c'est un peu dingue.
Non, trop pas. En plus, j'étais au Mexique en plus quand je l'ai fait, mais je sais pas, non, ça sonnait bien. Mais après, effectivement, c'est pas aussi.
L'île en elle-même, c'est genre Saint-Pierre-et-Miquelon, tu vois, tu t'emmerdes. C'est une île, mais tu t'emmerdes. Mais très bien.
Et sur Amour, sur ton dernier album, je trouve que t'as mieux réussi qu'auparavant à mélanger tout ça, à nous ramener de temps en temps vers de la pop, mais sans jamais franchir complètement, je trouve, le truc, tu vois, où pour quelqu'un qui aime une musique peut-être un peu plus indé, entre guillemets, je ne sais quoi, tu vas un peu le perdre. Et puis, notamment cette fin d'album, ou plus techno, etc. Enfin, je trouve que c'était bien d'amener tout ça, et c'est pour ça que je pense que j'ai apprécié l'album. Voilà.
Après, on vient d'écouter deux trucs très pop, mais oui. Allez écouter le reste
quoi,
de l'album.
Non, mais tu sais quoi, allez, voilà, on y est de toute façon. Genre, Habibi, par exemple, je trouve que ça représente bien ça. Ou un autre morceau,
Habibi, c'est un super exemple de.
Et bah, écoute.
C'était plus dark.
C'est parti.
Pareil, les intros sont longues, tu peux.
Tu vois, on est plus dans ma vibe là, tu vois.
C'est limite un peu cinématographique, non?
Les intros longues, ça donne tout de suite cet effet. Allez! Bon, j'avance un petit peu, est-ce qu'il y a des évolutions? Bref, voilà, là, bon, c'est un morceau taillé pour le club, de toute façon, j'imagine.
Il y a de la saturation, c'est pour ça que
peut-être
pas passer de guitare,
peut-être.
Ouais, c'est il a mis de la disto. C'est clairement fait pour le club.
Ouais.
C'est bien parce que du coup, ça nous fait une transition toute trouvée.
Ouais.
Pour la deuxième partie.
Bah, avant ça.
Parce que du coup,
parce que le côté justement, à quel point la science, la lecture des gens, la lecture des danseurs, te permet toi d'influer.
Ça, c'est ultra intéressant, t'as raison. En fait, il y a deux trucs, ça peut être deux questions. Celle de Daz, mais peut-être juste dans un premier temps, est-ce que tu as le sentiment parfois qu'il y a une... est-ce que, si on doit te présenter, tu préfères qu'on dise que t'es un DJ ou que t'es un compositeur, par exemple? Est-ce que pour toi, c'est pas exactement la même chose? Est-ce que ça doit être parfois même hiérarchisé? Enfin, tu vois... On pourrait se dire de l'extérieur, par exemple, qu'il est plus valorisé d'être un auteur, compositeur, interprète, etc., qu'un DJ, par exemple.
En fait, ça dépend, quand on me le demande, ça dépend qui me pose la question.
Ouais.
Mais en général, maintenant, je dis musicien. Enfin, ouais, c'est un terme pour tout, mais je suis quelqu'un qui fait de la musique, tu vois.
En fait, tu mets un aspect en avant en fonction de ce que tu veux faire passer comme message. Ouais.
Et ça, en fait, ça dépend du moment de la journée, ça dépend. Enfin, pour moi, c'est indissociable. Enfin, je suis un artiste musicien et être DJ fait partie de ma pratique, compositeur fait partie de ma pratique, jouer en live un concert avec des machines et une scéno fait partie de ma pratique. Et pour moi.
Mais du coup. Justement, il n'y a pas un aspect qui prend le pas sur l'autre. C'est-à-dire que quand tu composes, tu as quand même le temps de faire ton taf de DJ, c'est-à-dire diguer des trucs, réfléchir à des mix.
C'est pertinent parce qu'en vrai, je dirais que la première partie de ma carrière, j'étais plus DJ et le reste supportait cette carrière de DJ. Et en fait, à partir du moment où tu switches, enfin, j'ai eu un vrai switch où je me suis dit à un moment, j'ai envie de. Tu vois, ça faisait. Je l'ai eu en 2016, cette envie, donc ça faisait 5 ans que je faisais du DJ set, que je sortais des singles à droite à gauche, un peu d'EP où c'est quand même, tu commences un peu cette construction d'un projet radiophonique.
Audiophonique.
Phonographique, je voulais dire.
Ça marche aussi.
Bref, un disque, quoi. Et il y a eu ce moment où je me suis dit, bon, vas-y, on va faire un album maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et en fait, c'est très dur. Enfin, depuis que j'ai fait ce switch du premier album, c'est très dur de revenir vraiment dans un truc de DJ parce que c'est d'autres mécanismes. Tu fais pas de la musique de la même façon. T'es sur le temps long. Et d'ailleurs, c'est un truc qui me manque terriblement aujourd'hui. Et maintenant, je vais essayer de rebasculer d'un peu dans l'autre côté. Parce qu'en fait, quand tu fais un album, la réalité, c'est que tu fais des maquettes. Et puis après, tu vas voir ton label. Tu vas, peut-être que j'aimerais bien faire un album. Tu dis, travaille encore. Tu refais des maquettes pendant un an. Tu arrives et tu as 2 ans de musique. Et puis, on dit, ah, c'est cool. Et du coup, mix, mastering, machin. La DA, en fait, en réalité, quand tu as un disque, tu as des morceaux que tu as fait il y a 4 ans. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Et
ouais.
Le morceau où tu es tout feu, tout flamme, parce que tu viens de le faire et tu l'écoutes en boucle, et ben. Cette énergie, en vrai, elle disparaît un petit peu.
Alors qu'à l'inverse, tu peux la passer en club le soir même, limite après l'avoir exporté.
Je fais ça tout. Franchement, à chaque fois que j'ai un DJ set, je peux passer la semaine en studio à me tourner les pouces. Là, la semaine dernière, je joue à Nice. Et j'adore ce groupe qui s'appelle Ascendant Vierge. Et j'ai commencé un début de remix dans le train. On est arrivé la veille. Bref, et le jour d'après, à l'hôtel. J'ai exporté à 19h, le soir je le jouais, tu vois. Mmh. Et moi j'adore ces trucs-là parce que vraiment t'as un espèce de truc en plus quand tu fais de la musique où t'as un moment où t'es créatif en fait. Et t'as une espèce de. Enfin là, je saute du passe du coq à l'âne, mais quand t'es dans le studio ou juste sur ton laptop, là j'étais vraiment dans le TGV sur mon laptop, à un moment tu sens un truc et ta boucle elle commence à prendre forme et tout. Et en fait, quand t'es dans ce que j'appelle le flow, il faut pousser le plus possible parce qu'en fait c'est très dur de revenir dans cet état et vraiment essayer, tu vois, tout de suite de poser une structure de machin. Et tu vois, là j'étais un peu, enfin j'étais pas sûr du truc et je me suis dit non mais vas-y quand même, essaye, sors un truc. Et je me suis forcé à faire une structure complète avec vraiment une outro et tout, et boum, tu l'exportes et en fait tu poses quelque chose et après tu peux réagir toi là-dessus. Et
alors justement, on en revient à la question de Daz, qui était dans quelle mesure ces deux pratiques, certes complémentaires, on l'a bien compris, elles cohabitent, voire elles se nourrissent l'une l'autre, tu vois. Par exemple, tu dis, tu composes un truc, tu l'essayes tout de suite le soir en club, derrière, qu'est-ce que t'en tires comme enseignement, par exemple?
Tu vois si ça marche.
Tu vois si ça marche aussi. Ouais, ouais. Ou si tout le monde est là, genre.
Ça, passe, mais ça peut t'amener à modifier le morceau, à le mettre de côté, ça peut.
Le jeter, en vrai, non. En fait, ça m'est jamais arrivé de faire un test et de me dire. Enfin, si, quoique, non, je retire ce que je viens de dire. Ça m'est déjà arrivé, mais en fait, souvent, c'est des trucs que tu sens tout de suite parce que. Bah déjà tu vas l'enchaîner avec un autre morceau, donc si ça sonne mal tu vas vite te rendre compte que ok, en fait vraiment c'est des trucs techniques quoi. C'est genre le kick est pas assez fort ou il y a trop de kick ou il est trop, il y a pas assez d'aigu, enfin. Et en fait juste tu mais en même temps, en fait, enfin en vrai, quand tu DJ, la première personne que tu veux faire danser c'est toi. Ouais. Donc, quand même toi t'es là genre, il manque un truc, en fait ça te donne cette indication de qu'est-ce qu'il faut en fait pour faire danser les gens ou provoquer une réaction, enfin en tout cas la music club, l'idée c'est quand même de faire danser les gens. Donc en fait, c'est incroyable parce que c'est du feedback direct et après direct tu le corriges et franchement la deuxième fois que tu le joues en général c'est bien quoi.
Donc c'est à dire que tu le joues le soir même, tu te dis ah là j'ai senti je sais pas j'ai une connerie, un drop ou une montée etc qu'elle a pas eu.
Souvent c'est ça,
ce
exactement.
Que je voulais.
Exactement. C'est est-ce que t'as un peu des bras en l'air et tout. Enfin c'est moi je fais pas de l'EDM donc je sais pas où tout le monde lève les bras mais quand même en vrai tu sens qu'il se passe une réaction en général quand t'arrives. Je déteste ce mot, mais moi je l'utilise aussi, de drop ou en tout cas de point culminant du morceau. Normalement,
il se
passe quelque chose, tu vois, les gens sont contents, ou ils lèvent les bras, ou enfin, il y a une émotion, tu le sens dans l'air. Enfin,
tu perçois le truc, quoi.
En fait, quand t'es DJ, c'est un truc. Le DJ, c'est quelqu'un, c'est un acte social, tu vois. En fait,
t'observes vraiment la foule.
Je fais que ça. Je passe mon temps à regarder les gens, et moi, ça me rend fou quand je vois un DJ qui est là, genre.
En fait, tu
DJ pour les gens en fait, et du coup il faut voir ce qui se passe et après c'est pas évident, tu vois, d'affronter le regard des autres et franchement quand tu as un appui play sur ta CDJ, tu regardes les gens, tu vois, je me regarde là.
Tu sais que ça c'est un vrai truc pour quelqu'un qui pratique un instrument mais qui n'a jamais fait le DJ, de me dire mais comment occuper, alors évidemment ton set en fait ça se prépare beaucoup,
tu fais ça après.
Non mais en fait en réalité ton esprit est quand même beaucoup occupé par ton set, bien le faire, etc. Mais
il y a des mecs qui tournent des potards, on sait que ça arrive nulle part,
mais il y a des moments aussi où tu vois où ne serait-ce que ton attitude corporel, etc. Enfin, c'est pas évident quand t'as pas, par exemple, un instrument dans les mains ou tu vois un truc tout de suite
à faire
tout le temps.
Franchement, c'est un instrument. Ouais. En fait, la façon dont tu le. Enfin. Ouais, je pensais qu'on allait parler de ça beaucoup plus tard, mais puisqu'on y est, allons-y. Mais en fait, plus ça va. Enfin, ouais, j'ai fait du. Ouais, j'ai un peu triché, j'ai fait du piano quand j'étais petit aussi. Mmh. Je ne l'ai pas dit. Mais du coup, j'ai
ça, au fur et à mesure, on a. Ouais, alors, en fait, j'ai vécu aux États-Unis. Et puis.
Et alors, en fait, mon papa était producteur.
Ok.
Tu vois, Sony.
Non, j'ai des parents fonctionnaires. Ils n'ont rien à voir avec la musique. Donc, là, pour le coup, c'est pas triché. Mais non, mais en fait, moi, pour moi, les platines, c'est. Enfin, c'est vraiment comme un instrument. Et même, parfois, les ingé-sons, ils me prennent pour un fou. Si, par exemple, la platine. Enfin, tu sais, l'étape pionnière, en général, t'as quatre pistes. Mmh. Parfois, les gars branchent les platines de gauche sur la 1 et la 2. Moi, c'est toujours la 2 et la 3. Et si j'ai une quatrième, à droite, c'est la 4. Et si j'ai une troisième, c'est la 1.
Je comprends.
Et systématiquement, je redébranche parce que, en fait, je regarde même pas. Enfin, je connais tellement les trucs que je regarde même pas et je veux que ça me tombe sous la main. Et en fait. Bah, pour mixer, t'es toujours quand même un peu à réagiter un EQ ou un machin. Et en fait, tu rentres dans une espèce de danse avec le setup pour que tu sois toujours en train de faire quelque chose. Et j'en parlais avec un pote il y a pas longtemps. Et en fait, le gros du truc aussi, c'est qu'en fait, ce qu'on fait quand on DJ, c'est qu'on cherche le morceau d'après. Moi, je prépare pas mes sets. Enfin, j'ai une organisation qui fait que je sais où trouver les choses, mais j'ai jamais de liste. Parce que justement, je regarde les gens, je vois ce qui se passe et.
Les orgas ne demandent pas une liste justement de. Non, ils s'en foutent.
En théorie, c'est après ton
festival,
set.
En festival, oui, mais ça, c'est vraiment un festival ou en grosse salle, tu fais ta liste SACEM. Mais non, sinon, tu fais.
D'accord.
Juste
pour payer les gens dont tu as utilisé la musique, quoi.
Exactement. Mais en fait, tu. T'es toujours à chercher le morceau d'après. Et en fait, le game, c'est de réussir à chercher le morceau d'après sans faire ça. Donc en fait c'est en même temps que tu
oui là je dis pour ceux qui nous écoutent tu mimes, ils cherchent le truc avec la molette
en gros t'as ton mixeur, t'as une platine, une autre platine, et moi j'aime bien avoir une troisième parce que justement en fait ça te force à te déplacer et en fait t'interagis avec les platines comme un instrument et t'as force à pas être statique. Et en fait à chaque fois je vais regarder un petit peu, genre en fait dès qu'il y a un moment dans la musique où il se passe pas grand chose, le truc c'est tu regardes un peu tes playlists, mais j'essaie de pas passer plus de 5-6 secondes dedans pour pas avoir l'air d'être absorbé là-dedans. Et après bah tu vas avoir un petit élément dans la musique où tu vas avoir envie de couper les basses ou remettre un peu de médium ou machin, ou mettre un peu de réverb ou enlever la réverb. Et en fait c'est tout ce jeu de se donner l'impression aux gens que t'es dans la musique avec eux. Donc en fait dès qu'il y a un truc important qui se passe dans la musique, là tu repasses en mode.
Bah,
tu tournes
les
EQ, ouais. Tu souris, machin, tu smiles. S'il faut,
tu lèves les bras. Ouais, ouais. Ok, ça se fait.
Ok.
En vrai, ça c'est une grande question. Mais avant Covid, jamais je levais les bras. Tu vois, peut-être à la fin, tu vois, t'applaudis. Mais il y a eu un espèce de truc où post Covid, franchement.
Bah les couilles, c'est bon. Ouais. Je me lâche.
Non, mais on est là pour s'amuser. Et en fait, la différence sur un public entre.
Quand tu lèves les bras.
C'est fou. Hein. C'est magique. Hein.
C'est vrai.
Vraiment, tu mets le même track. Juste
comment tu le fais? Tu peux nous mimer? Comment tu l'as fait? Pardon. Vas-y, continue.
En vrai, après, t'as plusieurs moyens de le faire. Tu vois, moi, je fais un truc, genre, je tape dans les mains. Tu vois, un truc un peu mignon. Après, t'as les mecs qui font des espèces de trucs, genre, ils font l'oiseau, tu vois.
Mais
moi,
ça, tu vois,
pas des trucs de fou.
Mais
comme
ça, c'est extrêmement intéressant parce que, moi, j'avoue que pour le live, je suis attaché au côté les instrumentistes, etc. Parce que la façon dont ils vont se tenir, dont ils vont se mouvoir, le fait, par exemple, d'avoir une guitare ou une basse qui te permet de bouger sur scène, là où ton clavier, tu vas être généralement fixe, etc. Tout ça change complètement ton jeu de scène, d'une part. Et surtout, tu vois, en fait, notamment quand t'es plus limité avec un instrument, eh bien, t'es obligé de développer des parades, des compétences qui vont faire ton identité. Parce que sinon, tu ressembles à l'autre mec derrière son clavier, qui ressemble lui-même à l'autre mec derrière son clavier. Et j'imagine qu'en tant que DJ, c'est plus ou moins conscient. Certains, peut-être, le travaillent vraiment, d'autres moins, c'est juste avec leur personnalité. Mais il doit y avoir un truc, à un moment, on doit se dire à quoi je ressemble sur scène et qu'est-ce que je veux dégager.
Je vais pas dire assez vite, mais j'ai. Enfin, tu vois, on se retrouve aussi dans des formats vidéo. Genre, moi, j'ai fait un cercle. Qui d'ailleurs était comme un boiler room, mais dans des endroits spéciaux, et c'est vraiment un énorme truc de la musique électronique. Et du coup, bah, en fait, ouais, t'es filmé par 5 caméras, et donc bon, tu réfléchis à ce que tu veux faire, tu peux pas juste être sur scène. Et en fait, le truc qui est fou aussi, c'est que de la même façon qu'on regarde les musiciens, en fait, le public, en fait, il te regarde. Même si on voudrait que le DJ soit pas le centre de l'attention, la vérité, c'est que dans les scénographies et dans la façon dont sont structurés les clubs et les festivals, bah, en fait, t'es le point focal, donc les gens te regardent. Et en fait, souvent en plus, ils te mettent une espèce de jupe sur le praticable qui fait qu'on voit pas tes jambes. Donc en fait, t'es comme nous là, t'es un homme tronc. Tu vois, comme David Pujadas au 20h. Tout ce que tu peux faire, c'est ça, quoi.
Donc bon, avec le grand plan, les gens verraient si t'es en slip. Ils savent là que tu l'es pas. Tout va bien.
Non, je porte un pantalon. Mais en tout cas, enfin, du coup, il faut trouver des parades pour ça et il faut être actif. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai 3 platines, parce que du coup, je me décale. Tu vois, je sais pas, parfois dans une montée, tu vois, j'ai des petits pas de danse, et je reviens. Et en fait, t'es obligé de faire tout ça parce que sinon.
Mais c'est conscient du coup. C'est pas genre je m'enjaille et il se trouve que c'est uniquement ça.
Non, je me dis. En fait, c'est conscient et inconscient. Je sais que j'essaye d'amplifier en fait mes sensations, mais je suis ce que quand la musique que je joue me transporte pas plus que ça, je le fais pas. Tu vois. Mais ça va jusqu'à.
Et tu te forces pas quoi.
Non. Mais j'essaye d'y prêter attention
et de proposer un spectacle aussi.
D'amplifier, bien sûr. Mmh. Et t'essaies d'avoir le smile, de pas faire la tronche parce que t'es content. Même parfois les gens réagissent pas, donc t'essaies quand même d'avoir le smile, d'avoir du eye contact au bon moment. Parce que vraiment entre le même morceau, même aussi bon soit-il, dans le break, tu coupes les basses, tu rajoutes de la reverb, tu tapes dans les mains. Genre, la moitié du public va se mettre à taper dans la main. Il y a un truc de mimétisme. Et en fait, tu vois, j'ai développé des petits trucs rigolos, tu vois. Genre, quand il y a un espèce de white noise qui monte, avec ma main, je fais ça.
Que t'as fait tout à l'heure, d'ailleurs, quand on a écouté le morceau.
C'est un peu mon réflexe. Ouais. Et du coup, tu montes jusqu'au ciel, et après, tu baisses la main, et le truc part, et t'as fait le spectacle sans en faire, tu vois, sans faire un truc de fou. Mais il m'est arrivé de slammer, tu vois. Fin d'un. C'était à Nancy à 2 ans.
Rock'n'roll.
Ouais, slam au sens dans le public. Pas slam, genre je prends un micro.
Non. C'est vrai, il m'est arrivé des fois, les gars, de slammer, j'ai arrêté la musique.
Je coupe tout. Voilà, je voulais qu'on soit malade.
Ouais. non, pas du tout. Mais en fait, il y a un truc qui est rigolo, c'est que quand t'es sur une scène, tu peux pas le faire en club, ça, mais quand tu joues sur un gros festival, en fait, ouais, tu peux passer devant, quoi. Donc je suis passé devant à la fin, tu vois, les gens ils sont toujours contents quand tu fais ça, tu tapes dans les mains, tu fais coucou. Et je voyais les gens qui avaient un peu les mains levées et tout. Je me suis dit, franchement, ça se tente. Les crash barrières, elles étaient pas trop loin. Ouais. J'ai juste refait, je crois que j'ai remis le même morceau, je sais plus ce que j'ai fait.
Ouais, t'as rebouclé.
J'aurais fait comprendre que ça allait se produire et j'ai jumpé et c'était ouf, quoi. Je comprends pourquoi les rockstars.
J'imagine les gens dans les années 70. Ils ont pas capté ce que tu voulais faire. Du coup,
non, mais là, c'est le fail. Ça, c'était clair.
Ça
a déjà été fait. Il y a des vidéos qui tournent parfois, t'es d'artistes qui se ramassent direct parce qu'ils sont pas récupérés.
Mais je crois que j'ai vérifié qu'il y avait un peu des costauds devant et j'ai fait, les gars, vous me tenez.
Ah oui, ok.
Et après, j'ai jumpé. Après, le truc que je m'interdis de faire, et c'est le micro, quoi.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on est chaud ce soir?
Ouais, non, mais c'est où le 1, 2, 3, 4. Tu vois, c'est genre.
Ouais.
À la limite, vraiment, si c'est un truc ouf et que là, il y a une connexion avec les gens, je vais dire. Merci Paris, c'était trop cool. Mais pas plus, tu vois. Parce qu'il y a quand même aussi un truc où, en fait, ils t'ont vu gesticuler pendant 1h30, 2h sur scène. Et il y a un espèce de truc où, on te parle et c'est cool, tu vois. Enfin, il y a un espèce de truc où. Enfin, moi je suis pas du tout en plus dans ce délire de DJ inaccessible, personnage, machin. Enfin, moi j'aime bien être proche des gens et tout. Et du coup, je trouve que ça a créé un lien. Enfin, c'est plus cool, tu vois. Enfin, tu t'adresses directement à eux, tu t'es adressé à eux via le médium de la musique et vous avez partagé quelque chose. Et s'il y a vraiment. Mais ça, je le fais que si il y a eu un moment spécial où il y a vraiment une connexion et tu vois, tu le forces pas. Mais il y a des fois où il faut le faire, c'est important. En live, je le fais toujours parce que c'est un format concert, donc sans en faire des tonnes, tu au bout de 2 morceaux, tu dis bonsoir Tourcoing et à la fin tu dis, tu dis merci au minimum, quoi.
Ouais.
Mais
t'as dit un truc que le DJ était quand même, comment étaient foutus les clubs, etc., les boiler rooms et compagnie, étaient quand même au centre de l'attention. J'ai entendu des DJ avec un peu d'histoire derrière eux dire qu'il y a eu un changement à ce niveau-là. Et que eux considéraient, des mecs à l'ancienne, considéraient que normalement c'est le public la star, pas le DJ, et que eux, même limite, ils aiment les cabines éloignées où on le voit pas, etc. Et tout se passe sur la piste de danse. Est-ce que c'est un truc dont t'as déjà entendu parler, ou même tu vois une évolution avec le temps à ce niveau?
Moi, je pense que quand j'ai commencé ma carrière, on avait déjà fait ce switch. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc des années 80-90. Après, moi, je mets une nuance là-dessus. Je trouve que oui, faut pas être trop. Enfin, en tout cas, moi, dans ma pratique, j'aime pas être trop mis en avant. Le top, c'est quand même toujours quand t'as une petite scène, pas trop haute, et surtout proche des gens, en fait. C'est surtout ça qui fait la différence. C'est que si t'es quasiment à leur hauteur et que t'es à 1 mètre, quoi, limite tu peux les toucher, en fait tu peux établir une connexion avec eux et ils se sentent moins obligés de te regarder comme si c'était un spectacle, tu vois. Et
En fait, ça dépend des salles, en vrai.
Alors, ouais, mais je pense qu'elle-même, elle s'adapte à des usages, tu vois, et à des modes, etc. Et il y a un truc, en tout cas, qui est indéniable, c'est que les DJs sont devenus des stars là où ils ne l'étaient pas avant. Tout comme d'ailleurs les producteurs sont un peu plus mis en avant, etc. Sinon, t'es pas d'accord forcément avec ça ?
Ça dépend du niveau de notoriété, tu vois.
Enfin, ouais, mais il y en a beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que tu vois, le circuit et le nombre de DJ stars dans le monde, il est extrêmement important. Et je suis pas sûr qu'il y avait un équivalent avant, non ? T'es pas d'accord ?
Non, je pense justement qu'il est très limité et que ouais. Ces gens-là, tu les mets énormément en avant. Mais après, on rentre encore dans une autre discussion qui est le fait qu'aujourd'hui, il y a un petit nombre de méga DJ qui s'accaparent une part énorme du marché et que. Grosso modo, les programmateurs veulent prendre moins de risques.
Pas être toujours au même.
Et du coup, bah oui, tu vas avoir Peggy Gou, Laurent Garnier, Charles Deux. Enfin, des noms qui sont tous des musiciens que j'adore, mais on se réfugie dans des valeurs sûres et qui font que t'as un petit nombre de DJ qui a vraiment cette starification. Mais après, le reste, je pense qu'il y a un rapport plutôt sain aux DJ et on est même plutôt dans une tendance maintenant à revenir à justement des scènes centrales, des scènes où le public peut aller autour, tu vois, t'as les nuits sonores qui ont fait ça, le Rex, ils viennent de ils ont fait des travaux tout l'été, ils viennent de rouvrir, bah maintenant ils ont un DJ booth sur roulette, là la semaine dernière ils ont fait Jennifer Cardini au centre du club. Et tu reviens plus à ce truc proche des gens, pas loin, et en fait le DJ le centre, mais il est pas le point focal en fait.
Okay.
On est plus dans un truc de partage. Mmh. Et ça c'est cool, tu vois, moi je trouve ça. Enfin, je sais pas pour mes collègues DJ, mais moi je fais ce truc pour partager des émotions avec les gens. Mmh. Moi je m'en fous d'être, tu vois, que les gens.
Après t'es quand même la personne qui fait que les gens se déplacent, donc c'est un peu normal aussi de te mettre en valeur.
Mais, ouais. Oui et non. Hein.
Ah ouais.
Oui et non. Bah ouais. T'as tous les cas de figure. Hein. T'as des gens qui viennent. Je sais pas. J'ai joué à un festival au Touquet il y a un mois et demi. En fait, tu vois, t'as 5 autres DJs qui jouent sur ma scène, t'as
des têtes d'affiches à côté. Ouais, sur un festival, c'est différent, ouais, je suis d'accord.
Même dans un club, t'as des clubs où enfin, franchement, j'ai jamais eu cette chance-là, mais tu joues à Panorama Bar, les gens, ils viennent parce que c'est Panorama Bar, tu vois.
C'est
la salle disco du Berghain, à Berlin.
Ok, d'accord. Qui,
je pense quoi, arguably, comment... Enfin, j'ai réussi à pas faire d'anglicisme.
Tout le monde considère que c'est le plus grand club du monde.
En tout cas, une référence mondiale de la techno. Et tu vois, je pense qu'après, il y a des. Oui, t'as des soirées, tu vois. Par exemple, une soirée comme la Darude, qui marche super fort en ce moment.
À Paris, ouais.
Et qui est une soirée, en gros, revival Eurodance. Et maintenant, ils rentrent dans une logique de. Je crois qu'ils montent un label. Enfin, vraiment, ils ont fait le flip vers un truc artistique. Mmh. Mais à la base, c'est une soirée où les DJ jouent de la musique. On est dans un cas où ils jouent de la musique qu'ils défendent. Mais les gens sont pas là pour le DJ, ils sont là pour la soirée. Après, t'as toujours eu ça, tu vois. T'avais une soirée respect dans les années 90. Enfin, t'as toujours eu des soirées légendaires qui attiraient le public. Donc, en fait, c'est ça qui est fascinant, c'est que dans toute la discussion qu'on a, on se rend compte qu'il y a plein de degrés différents, en fait.
Il y a des variations.
On a commencé, là, clairement, à rentrer en deuxième partie qui concerne un peu plus le circuit du DJing. Juste pour clôturer la première, si tu veux bien, on fait un petit retour en arrière pour revenir sur cet aspect qui est extrêmement intéressant du business, entre guillemets, du monde des DJ. On n'a pas terminé sur le côté interaction, tu sais, entre compo d'un côté, DJ de l'autre. Tu nous as dit qu'effectivement, tu testais des morceaux en club pour les retravailler éventuellement derrière, si tu voyais qu'il y avait un truc qui avait moins marché, etc. Est-ce qu'à l'inverse, tu as l'impression que depuis que tu composes beaucoup plus, que tu t'attardes beaucoup plus sur ta carrière artistique, entre guillemets, ou en tout cas d'auteur-interprète, ça t'apporte en tant que DJ, inversement? Ok, quand tu composes, être DJ, ça t'aide, mais l'inverse. Est-ce que tu es un meilleur DJ, tu penses, depuis que tu produis de la musique en parallèle?
C'est dur à dire, parce que tu perds... En fait, je pense que je digue moins qu'avant. Donc, pour ça, je pense que c'est moins bien, parce que... En fait, si tu t'abreuves trop de la musique des autres, au bout d'un moment, c'est trop dur de faire la tienne. En fait, t'as trop d'informations, donc en fait, t'es un peu obligé de te mettre dans une bulle où justement, t'écoutes pas trop de musique.
Ouais.
Donc pour ça, c'est moins bien. Après, je pense que techniquement, plus ça va. Enfin, en termes de technique de mix pur et d'aisance scénique aussi, d'avoir fait du live, qui est encore un autre truc où là, pour le coup,
du live avec ta musique, tu veux dire,
live avec ma musique, où t'es pareil sur scène, sauf qu'au lieu d'avoir quand même ce gros truc rassurant avec les platines Pioneer et machin, le gros Pratos, t'as ton clavier et puis là, il faut jouer du clavier devant tout le monde, tu vois. Donc c'est différent, tu vois. Je pense pas que
Mais
quand pas de truc évident qui t'est nourri en tout cas, ouais, pardon.
Non, non, mais même quand quand on te book du coup, tu dis aux gens de choisir. Est-ce que c'est Zimmer le prod ou c'est Zimmer le DJ ou je te mets un mix des deux, non, en reste un peu, je te le mets quand même. Tu vois, c'est quoi le comment en fait tu positionnes ça, parce que tu dois avoir envie de tout faire toi.
Bah moi je pour le coup je mets une ligne très claire entre Zimmer live où du coup c'est un concert.
D'accord.
Et Zimmer DJ set.
Ok.
Du coup, en fait, c'est ça.
C'est soit l'un, soit l'autre.
Si t'appelles mon agent pour me booker, il peut te proposer les deux formules.
Ouais.
Après, la réalité, c'est que. Moi, quand je fais des lives, quand je fais des concerts, en fait, j'ai trouvé ce truc de. Enfin, j'ai pas de band avec moi. Du coup, mon band, c'est ma scénographie. Donc, j'ai des espèces de panneaux. Enfin, ce que j'appelle des panneaux solaires. Enfin, toute une installation lumineuse, en gros, autour de moi qui est. Programmé sur la musique où la musique interagit avec et en fait quand je joue en live je joue que avec cette installation, donc en fait c'est pas les mêmes besoins,
enfin c'est pas, oui,
techniquement c'est pas la même chose,
c'est pas le même matos, c'est pas
c'est beaucoup plus lourd forcément techniquement. Après on a un format plutôt léger, on arrive à le faire à deux, mais du coup j'ai mon ingé light qui voyage avec moi, du coup tu vois c'est 120 kilos de matos. On arrive à le faire en train ou en avion parce que comme je suis designer de profession, genre, le truc est plutôt bien optimisé. Les mecs se lancent des fleurs. Mais ouais. Non, mais en fait, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive tôt. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un soundcheck. Là, la scéno qu'on a, on peut réduire, mais en vrai, c'est bien si t'as 8 mètres d'ouverture sur scène.
Ouais, donc c'est vraiment pas.
C'est deux propositions.
Ouais, tu peux pas arriver à 19h et te dire, ah, oh, finalement, je vais faire DJ ce soir.
Allez, non, en plus, ça, c'est la douille. Combien de fois tu voyais sur une affiche, et en fait, t'as pas fait attention au tout petit mix, tu vois, au DJ set, et t'arrives, tu dis,
ah, moi, j'étais dégoûté, je vais voir des mecs, tu sais, genre des pitrock ou des trucs comme ça, et en fait, ils passent des disques. Je suis dégoûté.
Après, un bon. Enfin,
oui, non, ça peut être stylé, mais si c'est pas ce que t'avais envie de voir à la base, c'est chiant.
Si tu vas pour voir l'artiste, genre, on te dit, hé, le Wu-Tang, tu fais, ouah, trop bien, et en fait, les mecs, sur scène, il passe, ouais, il y a ce morceau-là qu'on aime bien aussi. Tu fais, ouais, non, mais vous faites quand, vous, tu vois.
Ouais, moi, j'ai vu ça il y a quelques années avec Jamie XX, qui est l'idole absolue au Zénith. J'étais à Jamie XX au Zénith.
Let's go.
Ça va être un concert.
Ouais.
Parce que je sais qu'il avait fait la cigale en DJ. Est-ce qu'en fait, t'as ce truc aussi,
c'est la taille de la salle.
En fait, tu joues dans une salle de concert, tu fais un concert, tu joues. Enfin, après, il y a des trucs un peu plus hybrides. On a moins ça à Paris, mais je pense à tout le circuit des SMAC. Tu vois, t'as le Bikini à Toulouse. Enfin, toutes ces salles qui en fait.
On en a parlé.
La semaine dernière.
Et il a même commenté sur YouTube.
C'est vrai.
C'était passionnant cette discussion. Mais bref, en fait, c'est des salles qui font et des concerts. Et du club, mais à la base c'est une salle de concert, enfin, et c'est vraiment pas, en fait c'est juste pas équipé de la même façon, quoi. Enfin, t'as une équipe technique qui est là pour te recevoir, t'as ce qu'on appelle un plateau. Enfin bref, je digresse, mais
non.
Moi c'est un truc d'ailleurs qui m'a passionné de quand j'ai fait cette bascule de découvrir ce monde, parce que ça n'a rien à voir. Avoir les codes de comment parler à une équipe technique, c'est vraiment très très différent. Donc, enfin, ces deux propositions, pour moi, je les mets dans des trucs complètement différents. Et en plus de ça, en fait, le live, du coup, ça nécessite une résidence, des répètes. Ça veut dire que c'est aussi une partie de mon studio qui est dans mes cases. Donc, en fait, quand je suis en live, en général, c'est une tournée, tu vois. Et on a plusieurs dates bookées d'un coup. Et du coup, quand c'est des dates un petit peu qui arrivent de manière sporadique, ça va être du DJ. Parce que DJ, enfin, tu recherches...
USB, ton matos...
Tu prends que ta clé USB.
Ah ouais. Même les platines, c'est pas les tiennes?
Ah non.
Il y a les standards que tu retrouves partout.
Mais je sais pas, peut-être t'es habitué à avoir un petit potard, tes réglages.
En fait, ça, on rentre vraiment dans le truc.
Allez, tu sais quoi, allons-y, parlons déjà du circuit des.
Attends,
DJ,
moi ça m'intéressait,
vraiment.
Ça répond ça.
Ok, ouais, mais c'était pour. Mais vas-y, attends, fini. Vas-y.
Ouais, en fait, quand tu. Mais ça, c'est vrai que c'est souvent un truc que des potes ou des gens qui connaissent pas le milieu me posent la question. La question est très pertinente. En fait, quand t'es DJ ou quand t'es musicien live d'ailleurs, t'as ce qu'on appelle un rider. Le rider technique, c'est un document qui explique le matériel dont tu as besoin. Et en fait, il y a ce truc magique qui est que chez les DJ, t'as ces platines qui sont de la marque Pioneer, ce qu'on appelle les CDJ, qui sont devenues le standard il y a 20 ans. Et en fait, que tu retrouves, franchement, que tu sois à Paris, en Malaisie, en Corse, en Chine,
c'est
machin.
C'est comme les MK2 pour les DJ.
Exactement.
Vinyle, quoi.
Ouais. Exactement. C'est le successeur de ça. Après, le seul truc qui est un peu compliqué, c'est que tous les 3-4 ans, t'as une nouvelle génération.
Ouais.
Mais grosso modo, c'est cette platine qui utilise en fait des clés USB. En gros, tu branches ta clé USB, c'est comme si tu avais un gros iPod avec les contrôles d'une platine vinyle et plein de choses en plus. Donc tu as ça partout, partout, partout dans le monde. Et donc c'est magique. En fait, et littéralement.
Je me suis toujours demandé comment Pioneer avait réussi ça. À s'imposer comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs aussi un peu business d'ailleurs, tu vois, quelle a été leur stratégie pour devenir le standard absolu?
Ça, je peux t'en parler, parce que c'était mon métier d'avant. Mais ouais, okay. Mais c'était littéralement enfin, c'est la question sur laquelle j'ai travaillé chez Native en plus. Donc, comment t'arrives? Parce qu'en fait, quand j'étais chez Native, on était à l'époque où on était à la transition entre les platines Pioneer CD et le moment où la clé USB est apparue. Ça va être semi-long, mais je me lance de...
Non, vas-y, c'est intéressant.
Okay. Donc, fin des années 90, le vinyle est standard, clairement. Donc, tu as la MK2 de Technics, qui est le standard que tu as partout dans les clubs. Table de mixage, ça varie un petit peu, mais bon, c'est moins important. Début des années 2000, Pioneer sont quasiment les premiers à faire une platine CD. Il y a eu plusieurs essais, mais une platine qui s'appelle la CDJ-1000, qui est la première platine CD où tu as un jog, donc un plateau, qui émule une Technics. Donc en fait, tu peux avoir quasiment la sensation du scratch. C'est pas un jog mobile, mais c'est un jog fixe. Okay. Et tu peux caler comme sur une platine vinyle, donc en mettant des petits à-coups sur le côté du plateau. Tu as un pitch qui est donc le fader qui permet de changer la vitesse, qui est au même endroit. Donc en fait, tu retrouves tes automatismes d'une platine vinyle. Au début, comme toutes les nouvelles technologies, super décrit et tout, en fait, la réalité, c'est que...
Je me rappelle, ouais,
les mecs, ils se pétaient le dos avec des caisses de vinyle. Là, ils peuvent avoir un petit classeur de CD. Ils ont 4 fois plus de musique. Ça veut dire que, typiquement, les DJ qui sont en train de devenir des producteurs, ils veulent tester leur nouveau morceau. Ils gravent un CD, ils peuvent le jouer. Ils sont pas obligés d'attendre un test press, un machin.
Ouais.
Du coup, quand même, un paquet d'avantages. La cellule ne saute pas. Énorme truc, quand même, surtout dans la techno où t'as énormément de subs. Et du coup, cette platine arrive, t'as un peu des concurrents, mais en fait dès que ça arrive, ils ont des super RP, ils enfilent à tous les clubs. Et en fait, ils commencent par les gros clubs, et ils sont allés à Ibiza, ils ont enfilé dans tous les gros clubs à Ibiza. Donc en fait...
Il y a eu un vrai travail commercial d'effectuer.
Ah ouais, c'est vrai. En fait, c'est la combinaison d'un produit qui était super abouti et qui pour la première fois permettait de retrouver cette expérience à un travail de fourmi sur le terrain. Et ils en ont envoyé à tous les plus gros DJ. Et en fait, c'est parti du haut pour redescendre. Et en fait, ces mecs-là se sont mis à les demander. Parce qu'au début, comme toute nouvelle technologie, tu vois, c'est soit ils louaient exceptionnellement, soit peut-être les tout premiers, ils venaient avec leur platine. Et en fait, les mecs se sont mis à demander ça. Donc les clubs se sont mis à anticiper et acheter ça.
Et en fait, c'est devenu un standard.
Les plus gros clubs ont acheté ça. Après, les clubs un peu plus petits. Et puis, tu vois, les DJ de genre internationaux, mais de seconde catégorie, ont commencé à demander ça. Donc tout le monde a commencé à s'équiper. Et en fait, tu vois, le truc marchait bien. Ça veut dire que les mecs, les ingé-sons des clubs avaient plus tous les problèmes de rumble et tout, donc ils étaient ravis. Parce que, enfin, une cellule qui saute sur un système de club, c'est pas ouf, tu vois.
Ouais,
et le vinyle a plein de qualités, mais moi, je pense que en club, c'est vraiment pas idéal, tu vois.
Ouais.
À la maison, c'est autre chose. Moi, j'ai une paire de techniques. J'adore jouer le dimanche dessus. Jamais de la vie, je jouais sur vinyle en club. Jamais. C'est un enfer. Et indépendamment de ça, t'as eu plein d'autres innovations qui sont, ça te donnait le BPM.
En fait,
ça te disait combien de temps il restait sur ton morceau.
Parce que le
vinyle, c'est quand même.
Oui, c'est au feeling, ouais.
C'est une science. Exactement. Et c'est ça qui est génial aussi. Mais en tout cas, du coup, Pioneer s'est imposé. Et en fait, ils ont réussi à garder le monopole. Leur domination a été un peu remise en cause. C'est vraiment long ce que je fais. Mais à la fin des années 2000, parce qu'en fait, on commençait à rentrer dans l'ère de le logiciel DJ qui tenait la route.
Le laptop, ouais.
Ouais, donc tu as eu grosso modo Final Scratch, qui était la première solution qui est devenue Traktor, et Serato, dont on a beaucoup entendu parler. Serato, on le voit encore un petit peu aujourd'hui. Et en fait, tu avais cette solution du timecode, où en gros, t'avais un disque vinyle ou un disque CD qui était relié à une interface et
un faux disque,
qui contrôlait ton ordinateur en fait.
Ouais.
Donc t'avais un logiciel où t'avais tous les mêmes avantages qu'une platine CD. Donc tu voyais le temps, tu voyais la vitesse du morceau.
Mais avec la sensation.
100% de la sensation.
La sensation
de la platine vinyle.
Non, c'est pas ça la diff.
Ouais.
La diff clé, c'est que du coup, en fait, c'était ta bibliothèque de MP3. Donc tu pouvais rentrer dans des trucs du genre classer tes morceaux par playlist.
Ah,
parce qu'en fait, quand tu graves des CD. En fait, en gros, la seule manière de faire, c'est chronologique, parce que sur un CD, tu vas pas mettre un track, sinon c'est l'enfer, tu vas en mettre une dizaine. Et là, du coup, pour la première fois, tu pouvais te dire, ah ok, vas-y, je vais voir tous mes morceaux de house, je vais voir tous mes morceaux de funk. Tu pouvais les classer par BPM. Donc, changement majeur dans la façon en fait dont tu sélectionnes ta musique. Parce qu'avant, même moi, quand j'ai commencé en CD, tu vois, t'es là, t'es dans ton classeur, t'as une lampe poche, t'es là, tu tournes les pages et t'essaies de dire putain, tel morceau, il est sur le CD 17 ou 54. Tu vois. Donc là, t'avais la recherche. Tu cherchais un morceau, tu tapais le nom. Enfin, c'était iTunes en fait.
Ouais, bah ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que ça aussi, ça a été décrié à un moment donné. En fait, les DJ CD, ils étaient un peu vus comme des wacks par les DJ vinyles, mais du coup les DJ Serato c'était encore pire parce
encore
que,
pire et, bah, et parce que l'autre différence c'est vraiment parce que c'est une grande histoire, l'idée de la triche.
Ouais.
Parce que en fait, pour expliquer aux auditeurs, la base du mix, en tout cas en musique électronique mais dans le hip hop aussi, en gros c'est de synchroniser les tempos. Mm-hmm. Tu vois, ça c'est les kicks du morceau, voilà, tu les mets comme ça. Comme ça, les deux morceaux s'enchaînent de manière fluide.
Ouais.
En fait, faire ça avec du vinyle, c'est extrêmement technique parce que t'as aucune indication. Le seul truc que tu peux faire, c'est relancer le disque depuis le début.
Puis certains mettent des marqueurs sur leur vinyle, un petit truc comme
ça. Ouais, certains même écrivaient le BPM, tu vois, pour avoir une idée de combien il fallait. Mais en fait, t'avais jamais, on te disait jamais, ok, là c'est bon, t'es à 125 et à 125. T'es toujours, tu bouges ton, enfin, c'est analogique, quoi, tu vois pas.
Ouais.
Et du coup, en fait, la platine CD, elle t'a donné l'information de dire à quelle vitesse c'était, mais il fallait quand même encore un peu galérer. Et le logiciel, en fait, il a carrément mis les waveforms. Donc, ce qui se passe dans la musique, il te l'a mis sous les yeux.
Et donc là, tu peux caler encore plus facilement.
Où t'as les deux waveforms, l'une à côté de l'autre, ou Virtual DJ. Et là, en fait, tu peux caler avec les yeux. Et, ou avec le fameux bouton sync. Ouais. Du coup là, et c'est ça la révolution de
du
logiciel, exactement. C'est t'appuies sur le bouton.
Ça arrive avec Serato sync, le sync.
Serato ou avec Traktor, mais oui. Je crois que les premiers Serato vinyle justement l'avaient pas, et ça a été toute une histoire aussi la première fois où Pioneer l'a mis sur ses platines. Mais donc en gros, on est arrivé à un moment à la fin des années 2000 où beaucoup de même de gros DJ commençaient, ils utilisaient toujours les platines Pioneer ou des Technics, mais utiliser Serato ou Traktor. Et en fait, Pioneer a failli perdre son monopole. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont lancé une platine qui s'appelle la CDJ-2000, qui est la première platine où directement tu mets ta clé USB. Et du coup, là, tu récupères, tu peux préparer en amont dans ce logiciel qui s'appelle Recordbox, qui est en gros iTunes pour les DJ, tu peux préparer tes playlists. Donc là, tu as eu le meilleur de tous les mondes, parce qu'en fait, quand même, jouer avec un ordinateur, ça impliquait de jouer avec un ordinateur. Un ordinateur dans un club.
Ouais. Bah après, ça se voyait tout le temps, en fait. C'est vrai que c'est.
Ouais.
Tu avais toujours un laptop ouvert.
Ouais, après, pour moi, ça pose plusieurs problèmes vraiment embêtants, entre guillemets. C'est que t'as ce fameux truc de Serato Face. C'est qu'en plus, les mecs, ils avaient leur table de mixage, ils mettaient leur laptop en haut.
Ouais,
et tu vois, tu pouvais être en festival. Et exactement. Et en fait, tu voyais, au lieu de voir la tête du DJ, tu voyais la pomme Apple. Sérieux, sur le côté un petit peu. Mais tu vois, tu mixes, t'es là, t'es comme ça, t'es aspiré par l'écran, en fait. Donc t'as ça.
Donc là, c'est un retour vraiment à la machine.
Exactement.
Ouais.
Exactement, parce qu'en fait, tu regardes, du coup, c'est pour ça aussi, tu vois, le truc des trois platines dont je parlais, c'est qu'en fait, ça te force à regarder à différents endroits et t'es pas genre.
Ouais.
C'est l'angoisse. Et le truc, c'est que du coup, fallait arriver avec ton ordinateur et fallait débrancher les platines, brancher ta carte son.
En fait,
vraiment, quand t'es dans un club ou sur une scène de festival, t'as pas envie d'être.
Ouais.
Enfin, franchement, quand t'es DJ, le premier truc au début, après tu vins ce truc, mais en fait, tu joues de la musique sur un système super fort.
Mais
tu fais le moindre truc, t'arrêtes la musique.
Ouais.
C'est l'enfer. Enfin, genre, tout le club se retourne et te regarde. Enfin, et franchement, on me l'a fait, genre, des DJ Serato qui ont débranché ma platine pendant que j'étais en train de jouer.
Ah ouais?
Je me suis pris un.
Ah, parce qu'ils se préparaient eux?
Je me suis pris une beigne à Lyon pour ça. Parce que le mec a fait ça et je l'ai insulté, quoi. Il m'a mis une patate. J'étais là, mais gars, tu viens de me couper. Mais, tout ça pour dire que. Oui, donc.
Comment Pioneer s'était imposé, c'est comme ça à la base.
Et en fait, donc Pioneer est arrivé avec cette solution qui finalement était le meilleur des deux mondes et ils ont gardé leur monopole et aujourd'hui, en fait, ça écrase tout parce qu'en plus, à l'époque, ils avaient qu'une gamme de platines hyper haut de gamme. Donc, en fait, tu commençais sur d'autres choses, sur Virtual DJ, sur Traktor, sur machin, jusqu'à aspirer un jour à jouer sur des platines Pioneer en club, mais t'avais pas de truc intermédiaire et maintenant ils ont une gamme.
Ils ont des contrôleurs à 150 balles, 200 balles pour commencer et qui sont un peu organisés de la même manière que les modèles pro, quoi.
Et ça, c'est récent, tu vois, ça a 6-7 ans.
Ouais. Et c'est comme GarageBand et Logic, quoi.
Exactement. Ouais. Tout fonctionne pareil. Donc maintenant, tu peux rentrer dans leur écosystème avec, à 200 balles, parce que c'est des outils qui coûtent très cher, tu vois, une paire de platines, aujourd'hui, c'est c'est 2500 pièces, les CDJ 3000 qui est le dernier modèle.
Ah ouais, quand même.
Donc c'est 5000 euros plus le mixeur, 2000 aussi, donc 7000 euros, tu vois.
2000 balles la mixette.
Ouais, mais c'est top of the line, tu vois.
Ouais, ok.
T'as des solutions super, mais en fait, ils sont très malins parce que t'as plein de solutions intermédiaires. Il y a toujours un petit truc qui manque.
Ouais, bah oui, bien sûr.
Ils peuvent encore l'améliorer. Et ça tombe bien, on sort une nouvelle version. Ouais.
Donc tout ça pour, parce que si on rebondit sur le sujet initial, c'était donc toi quand t'es sur un DJ set.
J'arrive que avec ma clé USB.
T'arrives avec ta clé USB.
Une question 10 minutes plus tard.
J'adore cette émission.
Et un casque, quand même.
Ah, t'as ton casque,
toi. Le club ne fournit pas.
T'utilises quoi?
C'est Sennheiser HD25 comme tous les DJ de la Terre. En vrai, franchement, si vous commencez à mixer, achetez le HD25. Par contre, j'ai un disclaimer sur le HD25.
Vous le trouvez chez Thomann.
Ça, c'est vrai.
Oui.
Tout se trouve chez Thomann.
Absolument.
Non, c'est que j'en suis beaucoup servi pour prodé au début parce que c'était mon casque de DJ.
Ah, ouais.
Et je me suis éclaté les oreilles parce qu'en fait, c'est un casque fermé qui met beaucoup de pression et donc on écoute fort. Et maintenant, j'ai un problème de pression auditive où je suis obligé de déglutir toutes les 5 secondes pour le restant de mes jours.
Ah ouais?
Ouais. Donc, en fait, si vous voulez prod à la maison, utilisez un casque ouvert. Mais n'utilisez pas de HD25 parce qu'après vous allez avoir des problèmes auditifs.
Ah.
Et c'est pas cool. Voilà. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc
de toute façon, le casque fermé, c'est soit pour enregistrer, soit effectivement dans un contexte de soirée, et puis c'est tout. Le reste.
On peut rappeler la diff entre un casque. Ça, par exemple, c'est quoi ça? Ce qu'on a.
C'est ouvert. Ah non,
ah non, c'est fermé.
Il est complètement fermé celui-là? Le
casque fermé. Merci Flav, c'est fermé.
Pardon.
Ouais.
Moi je suis.
Et c'est quoi la diff?
Mais pour ça sort un peu quand même le son de celui-là.
Non, vraiment, en fait, non, quand t'as un casque ouvert, c'est un casque qui laisse passer le son extérieur.
Et il n'y a pas aussi le ce qui sort du casque, ça joue pas aussi, ça?
Non, si, ouais, en fait, ça va dans les deux sens. Ouais. Une fois que c'est ouvert, ça rentre et ça sort.
C'est marrant parce que je l'imaginais. Ok, bref, je pensais qu'il sortait.
Ouais,
après celui-là, t'en as 3 versions.
Ouais.
Et t'en as ouvert, un semi-ouvert et un fermé.
C'est le 900, c'est ça là.
Ouais, 990, 880. Ouais. Mais,
770.
Ouais. Okay. Et surtout le truc aussi, je vois plein de gens dans le métro ou en vélo avec. Enfin, faut vraiment. En fait, c'est.
Ah non, mais les mecs, c'est des fous.
C'est cool parce que. Enfin, déjà, il faut pas.
Ouais,
moi qui suis un grand utilisateur de vélo, il faut pas mettre de casque sur le vélo.
Non, parce que sinon,
on n'entend pas et après, on se fait cartonner par une voiture, on pleure.
Ouais.
Et on n'entend pas les amis cyclistes. Non, c'est surtout. Faut pas, en fait, faut pas s'en servir comme casque du quotidien parce que ça va vraiment vous éclater les oreilles. Enfin, globalement, faut essayer de. En fait, quand vous êtes chez vous. C'est vraiment le vieux papier audiophile, mais écoutez sur des enceintes. Mais pas trop fort pour pas déranger vos voisins.
Ouais. Mais moi, typiquement, ça, tu vois, je l'ai quasiment.
Enfer, hein.
J'ai le même à la maison, j'ai quasiment tout le temps sur les oreilles. C'est une erreur.
Mais il faut que tu t'achètes un 990 chez Thomas.
Ouais. Je pourrais faire ça. Non, mais en plus, j'ai des bonnes enceintes, faudrait que je les utilise plus.
Oui,
c'est
juste
que je suis un peu en mode nomade, tu vois, à la maison, je bouge, etc. Bref. Mais
en,
oui.
En vrai, moi, j'écoute sur le Mac. Hein. J'écoute, du coup, j'ai tout le temps mon Mac et je trimballe mon Mac et j'écoute sur le Mac.
Oh là 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 là. Sacrilège.
On fera, de toute façon, un jour, on l'a déjà évoqué, un
la
épisode. Ouais, non, ouais, un DLT santé physique et mentale dans la musique.
Ah, ouais, pas mal.
Ouais.
Ah
ouais.
Si vous voulez parler enceinte monitoring, c'est très chaud.
Bah, les Yamaha.
C'est encore autre chose, mais
les Yamaha classiques là, que tout le monde a. Là, non,
il y a mieux quand même.
Ah, non, ah. Je les déteste. Elles arrachent dans les aigus. Je les déteste. Elles sont froides de ouf. J'aime pas du tout.
Envoyez vos rêves pour pas trop cher.
Focal, c'est cool.
Ah, Focal.
Neumann, c'est trop bien.
Ouais.
Genelec, il y a des trucs cool.
Ah oui, Genelec, ça, t'en avais parlé aussi.
Ouais, parce que t'as tous les prix.
Hors émission.
Ouais. C'est très bien. Mais c'est marrant parce qu'il y a aussi des cultures. Genelec, je l'associe à la musique électronique. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a une culture. C'est des moniteurs qui sont plus utilisés dans.
Moi, Genelec, j'ai l'impression que c'est un mec que t'appelles pour qu'il vienne réparer ton compteur électronique, tu vois. Le nom Genelec, c'est. Ouais. Pour moi, ça sonne pas du tout matos de musique. C'est vraiment. Oui, Genelec, bonjour. Oui, voilà, j'ai un problème avec mon compteur. Oui, mais j'arrive. Tu vois. Genelec, quoi.
C'est chelou. Bon, alors, j'ai essayé plein de fois. J'ai raté plein de fois de dire on passe à la deuxième partie.
Allez, vas-y.
Non, mais en fait, on y est déjà depuis longtemps. Je sais pas comment on fera. On mettra un truc, on dira que c'est la deuxième. Tu sais, sur la version vidéo, on met un petit affichage, genre partie 2. Ce qui est en fait. Enfin, je sais pas qu'on continue à le faire, mais on continue.
Si, pour le timecode. En vrai, c'est bien le timecode.
Ouais, c'est pas mal.
Hein. Franchement, c'est cool.
Ouais.
Ouais, sur le timecode, c'est cool.
Mais tu sais, parfois, la partie, en fait, elle a un peu commencé. Enfin, c'est pas tout à fait. Mais
c'est
bon, c'est histoire de, tu vois. Mmh. Parce que là, typiquement, la discussion qu'on a eue sur Pionnier.
Voilà, on fera un petit chapitre technique. Histoire des CDJ.
Non, mais en fait, ça rentre complètement dans le côté circuit du DJ.
Mais
parce que ça part d'une idée, c'est que ce matos, tu le retrouves partout et que tu pars avec ta clé USB. Voilà.
Exactement. Et ça, franchement, enfin, au début, moi, je comprenais pas tous les gens du live. Enfin, en fait, dans les salles, parce que t'envoies les mecs du live versus les DJ, ça, t'as cette différence. Ils te regardent trop mal parce que eux, ils sont arrivés à 15h à la salle, ils ont fait un soundcheck, ils ont mangé tous les trucs et tout. Et moi, je comprenais sans comprendre. Et pour l'avoir fait, une fois que tu l'as fait, t'es tellement content. Quand tu vas juste faire un DJ set, t'as un casque, une clé USB. Et c'est trop bien, c'est extraordinaire.
Mais du coup, alors, juste.
Ouais.
Avant d'attaquer.
Est-ce que c'est le côté. Oh là là, c'est terrible. Non, vas-y.
Parce qu'on a parlé du matos de DJ. Oui. Donc c'est des J, machin, truc, clé USB, d'accord.
Mais on est dans la partie 2, là, ça marche. Hein.
Ok, donc. Vas-y. Par contre, ton matos de live.
Ah.
Qu'est-ce que c'est, du coup? Alors, à part, t'as expliqué toute la scéno, les lights, etc. Mais.
Et pour vraiment, chaque marque, tu nous refais l'historique.
Mais vraiment, le matos avec lequel tu produis, c'est quoi? C'est les trucs d'Ableton, là?
Lequel je produis ou lequel je joue live? C'est pas pareil.
Ah, hein, et c'est pas pareil. Mais... Ah, putain.
Non, en fait, ce qui est rigolo, c'est que, avec le live, autant le DJ répond à un format qui est. Tu passes d'un morceau à l'autre, vraiment c'est la base du DJing, tu platines gauche, platine droite, et puis tu utilises la table de mixage pour passer de l'un à l'autre. Sur le live, en fait, il n'y a pas de règles. En fait, j'utilise Ableton Live comme la plupart des musiciens de musique électronique, parce que c'est le soft qui est vraiment fait pour ça. En fait, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Tu peux décider d'avoir tous tes synthés qui tournent en même temps et des boîtes à rythme. Tu peux avoir une partie qui est transférée déjà en audio et jouer une autre partie. Tu peux... Enfin, c'est à toi de presque designer ton instrument, en fait. Et du coup, tu choisis un ensemble de contrôleurs qui font que tu vas pouvoir
traduire ce que tu as envie.
Tu peux séquencer une partie un peu en amont, boucler à la volée. Enfin, tu peux.
Il y a vraiment, en fait, c'est assez limité. Ouais. Et c'est ce qui est difficile pour le public à comprendre, c'est qu'en fait, on sait jamais vraiment. Mais même moi, en tant que musicien live, c'est un peu le jeu d'essayer de voir comment les gens ont organisé leur système, comment ils divisent leurs tracks. Enfin.
Et toi, c'est un truc où t'as fait ça, premier live, tu l'as fait d'une certaine façon avec un certain set de matos. Et pendant ce truc-là, tu te dis, OK, la prochaine fois, je prendrai plutôt ce contrôleur-là.
Ça évolue tout le temps.
Ouais.
D'accord. En vrai, et c'est ça qui est rigolo quand tu vois, là, le début d'année, j'étais en tournée pendant 6 mois en live quasiment. Mm-hmm. Et toutes les semaines, je changeais un truc, tu vois. Et
une petite commande Thomann.
Elle peut vous arriver jusqu'en Indonésie. Non, c'est pas vrai, ça, par contre, je sais pas.
Mais pourquoi pas, peut-être. Thomann livre partout.
Force à moi. Non, mais c'est rigolo de. Enfin, même de. En fait, tu maps aussi en MIDI en fait tes commandes. Donc de changer ce que t'assignes à soit un fader ou soit un potard, tu peux le changer. Enfin, ça peut même changer d'un morceau à l'autre.
Et c'est tellement simple dans Ableton, en un clic, tu maps quoi.
Ouais.
Non, c'est compliqué. Ouais. Quand t'as des trucs qui changent, c'est plus compliqué.
En vrai, j'ai mis 4 ans à vraiment faire le truc. En plus, t'as pas vraiment de tuto, donc t'appelles un peu les copains, comment tu fais. Parce qu'en fait, il faut un peu avoir un système, une grille de fonctionnement, et après, tu traduis tes morceaux dedans, tu vois. Par exemple, est-ce que tu vas. On parle souvent de stem, donc c'est comment tu divises tes morceaux pour avoir le contrôle dessus.
Donc les différentes pistes, en fait, quelque part.
Ouais, ouais. Et tu vois, au début, j'avais commencé à 8, et là, je suis sur un système où j'ai 5. Je fais. Je sais pas si on.
Tu fais par groupe?
Je fais kick, basse, drums, pad et après mélodie et voix. Et en fait, ça fait que souvent les contrôleurs, les petits mixettes de live, c'est 8 pistes. Et du coup, en fait, ça fait que j'ai 2 pistes où j'ai kick et basse, qui sont le bas du spectre, qui sont uniques. Et après, j'ai comme une platine gauche avec drums, pad et mélodie. Et comme une platine droite avec drums, pad, mélodie. C'est quand je joue en live, je peux avoir le contrôle du coup sur tous ces éléments, mettre des effets, etc. Et en même temps, quand je fais les transitions à la fin, je peux laisser tourner, un peu comme je ferais en DJ set, une boucle de batterie, un pad, une texture, un truc, tu vois. Et après, j'ai des instruments que je joue.
Et vu ce que tu racontes, t'as jamais, je sais pas si c'est une pratique qui se fait beaucoup, mais tu sais, en fait, de mélanger les deux. C'est-à-dire un DJ set, mais agrémenté de jeux live, parce que j'imagine que tu peux avec, tu vois, une clock tout synchroniser, à la fois, ta platine et ton Ableton, par exemple. Tu branches en même temps des instruments, tu fais une boucle, comme c'est synchronisé, tu peux faire des boucles, etc. Et mélanger DJ set et création musicale.
Bah oui, mais il a dit que son agence était haut, les gars.
Oui, non.
Soit c'est live, soit c'est DJ, d'accord.
Je sais que pour lui, c'est très divisé, mais est-ce que ça se fait? Et soit c'est jamais un truc qui t'a tenté?
En vrai, t'as pas grand monde qui le fait quand même. T'en as quelques-uns, mais en fait, au début.
C'est trop intéressant.
C'est un peu casse-gueule, non?
C'est dur, parce que tu faut être super bon dans les deux, mais.
En fait, c'est pas lisible pour le public, je trouve.
Ouais.
Je trouve que c'est pas lisible, et je sais pas, quand tu défends ta propre musique, t'as pas envie de. Enfin, moi, je trouve ça un peu. sacrilège de, dans un live, de jouer la musique d'autres gens, tu vois. Enfin, tu peux jouer les remixes que t'as fait pour d'autres gens, mais en fait, bah, tu fais un concert. En concert, tu vas pas, enfin, si tu fais une reprise, tu vois, à la fin, mais, mais il faut qu'il y ait ta,
ouais, ça brouille un peu.
Sur la musique des autres, d'autres trucs qu'ils ont pas forcément, ouais.
Ouais. Après, ça, ça, ça se fait beaucoup signal, dans, ouais, dans la techno, tu vois, ça se fait vachement, bah, genre, Richie Hawtin, c'est un peu un pionnier de ça, où il a, et, Pushed, qui est un drum machine d'Ableton, et Traktor, où il joue des morceaux. Mais en fait, ça dépend du style musical aussi, tu vois, parce que ça, c'est de la musique qui est, enfin, c'est vraiment pas des chansons, c'est de la techno, donc c'est de la musique.
Oui, c'est une rythmique qui tourne et.
Exactement. Donc, ouais, tu peux plus les superposer, les mélanger, rajouter de la drum. Moi, je couvre un panel de styles qui est assez vaste dans ce que je joue en DJ, même si je pense qu'il y a, il y a un fil conducteur, tu vois, mais. Je vais jouer, disco, je vais jouer italo, je vais jouer house, même parfois eurodance, tu vois, mais. En fait, c'est trop vaste, donc le jeu, c'est plus de, justement, de jouer avec les genres, avec les tempos et tout ça, et je vois pas, honnêtement, l'intérêt de rajouter de la prod dessus, quoi.
Ouais.
Ou est-ce que vous me laissez vraiment rentrer dans la partie?
Vas-y, rentre
dans la partie.
J'ai le droit. Moi, j'ai encore plein de questions, mais on le fera en dehors de l'émission, ce sera plus simple.
Non, mais on va faire une émission de 4 heures, là, c'est bon, on est parti. Ouais, en fait, c'est juste parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de l'aborder dans cette émission, et que moi-même, j'ai des interrogations vis-à-vis de tout ça, sur le circuit, vraiment, sur le monde du DJ. On a parlé plusieurs fois déjà, mais pour rentrer peut-être plus en détail, ne serait-ce que, par exemple, pour se faire booker. Tu racontais que bah, toucher le club que tu veux, c'est pas forcément évident. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un circuit parallèle au tourneur classique quand tu fais du live, tu vois? Est-ce qu'il y a un circuit spécifique pour être booké en club? Comment on chope une date en tant que DJ?
C'est quand t'es en début de carrière ou quand t'es déjà installé?
Peut-être que tu peux donner plusieurs exemples.
Bah, en fait, c'est un peu les deux différents. Enfin, la question, c'est est-ce que t'es représenté entre guillemets par quelqu'un? Donc on appelle ça en fait soit un agent, soit un tourneur, soit un booker. Mais en fait, c'est la même chose. C'est des gens qui font l'interface entre l'artiste, ou l'artiste et son management, et le club. Le manager, en gros, c'est l'étape d'avant, quoi. C'est l'étape, c'est la personne qui est le plus proche de toi, qui va justement, en général, quand tu commences à avoir une carrière qui se développe, t'as plusieurs personnes autour de toi, et du coup, c'est la personne qui va faire l'interface avec tous ces professionnels du métier. Mais en gros, c'est donc soit tu es ton propre agent, ce qui est le cas en début de carrière en général. Donc là, c'est plus, en fait, ça dépend où t'habites, tu vois. Mais souvent, c'est une histoire de clubs locaux, tu vois. Tu vas voir la salle de concert ou le club qui est près de chez toi. Et puis, au bout d'un moment, à force de traîner au bar et de parler au barman et dire, je veux jouer. Le patron, il va te filer l'ouverture un soir et puis tu vas le faire. Ou tu vas être dans un collectif de DJ et tu vas envoyer, tu vas demander au patron du club si tu peux faire une soirée avec ton collectif dedans, tu vois. Donc t'as ce format-là entre où tu discutes direct entre l'artiste et le club, et après quand ça se professionnalise, en général t'as un agent qui fait l'interface. Et après ça se passe de plein de manières différentes. Ça se passe de ce qu'on appelle une request, donc de l'entrant. Donc c'est un club qui va, un programmateur de club ou de salle de concert qui va se dire tiens, j'ai envie de faire tel artiste. Du coup, il va trouver le contact de son agent, lui envoyer un mail, et puis si les paramètres sont alignés, la date se produit. Où tu vas avoir l'agent qui va avoir, par exemple, ça c'est le cas pour moi quand je suis à l'étranger, tu vois, quand je suis aux États-Unis ou au Mexique ou en Asie, tu vas avoir, on se fixe une période et on se dit bon, on va essayer d'aller faire un tour dans cet endroit parce que tu vas pas y aller que pour une date. Donc tu vas avoir l'agent local qui va parler à son réseau de clubs ou qui connaît, qui va leur dire tiens, j'ai tel artiste, est-ce que ça vous intéresse? En fait, la réalité, c'est que les agents, il n'y en a pas énormément, et des programmateurs, il n'y en a pas énormément. Mais en fait, c'est deux mondes qui se parlent en permanence, et parfois, ça va même encore plus loin. C'est, en fait, ils sont soit dans les mêmes bureaux, soit ils sont potes. Et en fait, souvent, un agent va représenter plusieurs artistes, souvent d'un genre musical qui fait sens.
Et c'est vraiment un circuit différent de celui des artistes, auteurs, interprètes, qui font des lives, etc. Ou c'est les mêmes personnes, les mêmes tourneurs, par exemple?
Bah, tu vois, moi j'ai le même tourneur pour le live et le DJ. Okay. C'est typiquement un tourneur qui fait les deux. T'as des tourneurs qui sont spécialisés DJ, okay, et du coup ils ont vraiment un réseau où ils parlent qu'à ça. T'as des tourneurs qui sont spécialisés live et t'en as qui font les deux. Okay. Mais typiquement, tu vois, dans mon agence de booking, t'as la moitié d'headbanger, enfin t'as des. PNL aussi d'ailleurs. Quand on parlait tout à l'heure. Mais en fait, t'as des profils, du coup, t'as JMXX, t'as des profils qui sont plus hybrides. Et du coup, qui sont susceptibles et de jouer dans une salle de concert et dans un club.
Mais du coup, quand, quand tu te retrouves à faire une tournée type... Tu parlais tout à l'heure, tu avais joué à Taipei. Les salles pour la musique électronique que toi, tu joues, c'est-à-dire que globalement, n'importe quel artiste qui est à peu près dans ton domaine, il va jouer dans les mêmes salles, parce que c'est des réseaux. Et donc, si tu sais que tu vas à Taipei et qu'il y a 5-6 salles qui sont connues pour ça, tu... Deux. Ah ouais.
Ouais, max.
Ah ouais. Ah d'accord. Ouais, ok. Ouais.
Bah en fait, par genre, t'as vraiment des clubs qui bookent ça, ouais. Et du coup, c'est marrant. Enfin, finalement, tu vois, moi, ça fait longtemps que je fais ça. T'as quelques artistes comme ça. Enfin, évidemment, les gens de mon label, mais je sais pas, je pense à quelqu'un comme Yuxek, par exemple. Ouais. Mais littéralement, on est tout le temps programmé dans les mêmes clubs, tu
ouais,
vois.
C'est ça,
et tu te suis, en fait. Ouais. Et tu vois la prog du club, et tu peux être à l'autre bout de la terre. Et je me rappelle, il y avait un club à l'époque à Séoul qui s'appelait Cake Shop, ouais, qui bookait quasiment que des Français, tu vois. T'avais là, et du coup, ils mettaient toutes les affiches dans les backstage, et c'était que des gens que je connaissais, tu vois. Donc c'est assez rigolo. En fait, ça devient vite un petit monde. Ouais. C'est vraiment cette notion de scène musicale, de.
Ouais, c'est ça, de. Ouais.
Et de le club, de la scène musicale.
Le circuit, où, la scène, et ouais, du coup, au final.
C'est pas toujours un club, parfois c'est une soirée dans un club qui va booker ce type de musique.
Ouais.
Et voilà quoi.
Ce qui ressort de ton discours, c'est, comme souvent dans le monde de la musique, je pense que cette émission le démontre régulièrement, c'est il faut être entouré. C'est-à-dire que seul, c'est. Est-ce qu'un DJ avec une certaine notoriété peut gérer seul sa carrière, ses tournées, ses machins, etc.?
Franchement, t'as pas envie.
Bah ouais.
Ouais, parce que.
Quel est l'intérêt en plus?
De limiter les intermédiaires et potentiellement de faire un peu plus d'argent, mais bon.
Non, mais c'est sûr que. Bah oui.
En réalité, ça te permet après normalement de choper d'autres trucs si quelqu'un est dédié, donc en fait, tu t'y retrouves économiquement. Il faut faire appel à des gens. Mais...
En fait, au début, oui, surtout quand. Enfin, tu peux avoir le cas où t'es déjà un peu implanté, tu dis j'ai un intérêt d'un agent, mais en même temps, ça marche déjà bien pour moi. Est-ce que je vais prendre quelqu'un qui va prendre 15% de tout ce que je gagne, tu vois?
15,
et,
putain,
ouais, et attends, et après t'as un manager qui va aussi prendre 15.
Ah voilà, d'accord, ouais. Donc ça va, je m'en sors bien.
Non. Okay. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'au début, oui, peut-être tu fais la tronche, mais enfin, il y a deux choses. Déjà, il va t'apporter un réseau que tu n'as pas et des opportunités que tu n'as pas sinon.
En fait, c'est ça, c'est vrai, c'est les opportunités.
Et l'autre truc, c'est en fait, il faut être extrêmement organisé pour répondre. Enfin, genre, une date, en vrai, c'est quand ça se passe bien, c'est 30 emails.
Oui, c'est ça. C'est
parce que t'as la première prise de contact, c'est tiens, est-ce qu'on aimerait faire cet artiste? Ok, c'est quoi vos dispos? On a ça. Ah non, mais en fait, lui, il est dispo à telle date. Ok, donc après, ça part l'argent. Il faut se mettre d'accord sur les conditions. Tu t'es d'accord sur les conditions. Donc, t'es à quelle heure.
Le rider dont tu parlais.
Le rider, à quelle heure l'artiste va jouer? Ah non, il n'a pas envie de faire le closing. Il préfère jouer au début ou au milieu. Et ok, quel agent il va prendre? Après, c'est la prod qui prend le relais. Mais tu vois, en fait.
Il y aura ses chocobons.
Il n'y en a pas aujourd'hui.
Mais j'ai amené d'autres trucs.
Ah, c'est cool ça.
Tu vois, tu te plains.
Mais ouais, et en fait, faire ça soi-même. En fait, ce qui est très dur, c'est quand t'es DJ et qui plus est t'es DJ producteur comme ce que je fais, en fait t'as tout le temps, tu jongles entre plein de casquettes tout le temps.
Mais t'as pas envie de gérer l'administratif.
Exactement. En plus, maintenant, il faut être influenceur. C'est la réalité de notre métier.
Ouais.
Et donc, c'est en fait ce qui est un métier à part. Les gens qui rigolent quand ils disent lui, il est influenceur, il gagne plein de. Enfin, non, en fait, c'est une tannée de faire des photos, de les sélectionner, d'avoir des idées, de machin. Enfin, et si en plus de ça, tu dois répondre aux emails, gérer l'entrant, essayer de faire des requests et tout, franchement, c'est pas possible, quoi.
Ouais. Enfin, pour des trucs comme ça me surprend même pas. Parce que moi qui suis un petit streamer, déjà, j'ai un agent, tu vois. Parce qu'en fait, juste, ça te libère le cerveau.
Mais il prend pas les 15% sur DLT, c'est moi que je suis venu te voir. Et
il les prend pas, il m'a demandé.
C'est vrai? Non, arrête. Ouais. Oh, incroyable.
Ah, bah, c'est un squal. Il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on s'interface? J'ai dit, non, laissez-moi ma thune. Interfacez-vous avec d'autres trucs qui arriveront, mais le DLT, je le gère en direct. Il me fait, non, parce que Thomas, c'est intéressant, ça.
Oh là là. Oh, le requin.
Ah, bah, c'est des squals. Non, mais déjà, moi, à mon niveau, je vois la diff. Tu vois, de ce que c'est que d'avoir un agent qui, justement, va répondre aux mails pour toi, va négocier pour toi, parce qu'en fait, toi, t'es toujours un peu gêné
ça,
de parler d'oseille.
Tu peux pas te vendre toi-même, c'est impossible.
C'est très chaud, tu vois.
C'est impossible.
Alors que l'agent, lui, il me dit, je l'envoie chier ou pas? Tu vois, je dis, vas-y, il me dit, tu prendrais combien? Je lui dis un montant, et je sais qu'en fait, il va demander deux fois ça, tu vois. Et en fait, moi, j'oserais pas, parce que t'es là, toi, t'essaies de rendre service.
Et t'as pas toujours la même, en vrai, t'as pas toujours la même valeur, hein.
En plus, ouais, ça, bien sûr.
Enfin, en c'est tout cas, dans les DJ, je sais pas si c'est un chapitre concerné aux filles, mais enfin, au cachet, si tu vas faire un festival de 5000 personnes ou tu vas faire un petit club balbutiant de ou qui font s'entrer,
ouais, t'as des gammes
c'est,
de,
c'est pas la même chose en fait.
Pas la même chose, ouais. Ouais.
Ce qui est normal. D'ailleurs.
Et quand t'es un artiste, typiquement, le festival de 5000, ça m'arrive une fois par an, tu vois. Mm. Mais je vais jouer à un festival de 5000 et je vais jouer dans un petit club à Taipei où il y a 80 personnes, tu vois. Mm. Tu peux pas leur demander le même argent, mais oui, le festival de 5000, ça va être genre au Mexique ou en France. Ouais. Et à Taipei, ouais, t'attires pas autant de monde. Donc, donc faut que t'aies un agent qui ait la finesse de comprendre ça, tu vois. Je connais des artistes qui sont là, genre, ouais, non, moi je joue pas en dessous de tel montant.
Genre, j'ai un fixe, quelle que soit la salle.
Ouais. Tu peux pas, t'as des salles qui ont pas les moyens.
Ouais. Puisqu'on parle de fric, est-ce que tu peux nous donner une. Alors, j'imagine qu'en fonction de ta notoriété, etc., il doit y avoir une fourchette complètement hallucinante de différence de prix. Mais est-ce qu'il y a un peu des bases quand t'es un DJ un peu installé, professionnel, on te demande quoi? Déjà, comment ça se passe? On te demande un nombre d'heures. C'est-à-dire, est-ce que tu veux faire un mix d'une heure, deux heures, trois heures? On donne un créneau et en fonction de ça, tu vas être payé différemment.
Ça change rien, ouais.
Un nombre de morceaux, passe 27.
Mais c'est marrant parce que souvent, c'est des premières questions que les gens qui connaissent pas cette industrie disent, mais c'est ah, mais du coup, si tu as joué deux heures, c'est deux fois plus cher. Mmh. Non, parce qu'en en fait, en vrai, on va pas se mentir, hein, DJ, quand tu joues, c'est la partie rigolote, c'est trop bien.
Ouais.
Enfin, moi, je dis encore,
c'est la dernière étape, c'est
jouer. Ouais. Moi, parfois, mes parents me disent « Ah, t'as travaillé ce week-end ?» Je dis « Non, j'ai pas travaillé, j'ai joué, c'était marrant. »
Je me suis amusé, ouais.
Non, en fait le taf, c'est
préparer ton set,
faire Instagram, faire les réseaux sociaux, ouais. Parler à tes agents, oui, ouais. Faire les emails. Toutes les années que t'as passé à faire de la prod pour faire des morceaux qui ont rien généré. C'est ça. Donc, et le déplacement, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, je vais aller jouer... Mais même ce week-end, j'étais à Nice. Mmh. Aller jouer à Nice, je prends le train, j'essaie de ne pas prendre l'avion, tu vois. Donc tu prends le train pour aller à Nice, ça prend 6 heures.
6 heures,
voilà, donc tu arrives la veille pour ne pas être éclaté. Donc en fait, j'ai joué, je ne sais même plus si j'ai joué 1h30 ou 2h30. Mmh. En fait, on s'en fiche, ça m'a pris 3 jours de ma vie, tu vois.
Ouais, c'est ça.
C'est ça la réalité. Ouais. Donc,
tout compris, ouais, transport plus.
Exactement. Donc en fait, et puis une journée où t'es content de rien faire à la maison et tu fais tes lessives, tu vois. Mm. Mais c'est le lundi de la vie de DJ.
tu l'intègres dans le forfait. Ouais.
Non, mais en fait, c'est pour ça. Donc on raisonne jamais en tant que. Enfin, après, évidemment, si on te demande un all night long de jouer 6 heures, c'est pas la même chose que jouer 2 heures. En général, un DJ set, c'est 2 heures, tu vois. Parfois t'as des gens qui font 1 heure dans des soirées où ils essaient de programmer beaucoup d'artistes, mais moi perso je trouve que 1 heure c'est
Te déplaces, c'est à dire que tu fais tous ces déplacements pour 1 heure.
C'est même pas ça, c'est vraiment juste t'as rien le temps de dire, en fait t'as juste le temps de t'installer dans ton set, de connecter un peu avec les gens, en vrai de dépasser cette première appréhension de t'as quand même un peu le track et machin et t'es enfin bien
et au moment où ça va, boum, c'est fini.
Ouais, en plus moi j'aime bien laisser, enfin c'est des morceaux un peu, tu vois, tout à l'heure tu disais les introductions, en fait ouais, la musique que je joue nécessite du temps pour être entendu, tu vois, c'est une musique de progression. Donc en dessous d'une heure et demie, je trouve ça dur. Après, ouais.
Et donc cette histoire de cachet, tu dis ce que tu as envie de dire, mais juste avoir une idée, en fait, une fourchette, et encore une fois, de
disons... Là, on te dit, il est variable.
Non, mais ça, bien entendu, et Amélie Lien, ça ne va pas toucher la même chose que toi, ça, c'est certain, tu vois. Mais quoi que, peut-être tu vas lui surprendre. Mais tu vois, il y a des pratiques quand même un peu communes, j'imagine. On se dit, OK, on se met d'accord pour dire que ça commence à être acceptable, tu vois.
En gros, je pense que le minimum, quand tu joues dans un club, je pense que c'est 150-200, tu vois, quand tu fais des ouvertures. Mmh. À mon époque, tu vois, c'est quand tu jouais dans un bar, c'était 80,
c'est pas
quoi.
Grand chose.
Non, c'est clair. Et après si tu commences à être confirmé,
t'as quand même le burger.
Ouais.
Non, mais il faut le noter parce qu'il a 20 balles.
Une pinte ou un coca.
Ah, wow. Joli.
Mais
ouais, quand tu commences à être confirmé, tu disais.
Ouais, tu peux. Après, tu vas commencer à faire du 500, 600. En fait, faut bien comprendre un truc. Hein. La rémunération du DJ, elle est liée à sa capacité à vendre des tickets et à générer, enfin, vendre des tickets ou vendre. De des
console,
boissons,
ouais.
Donc de générer du revenu.
Mais t'indexes, tu peux dire, genre, je prends pas la billetterie, mais vous mettez un pourcentage sur toutes les bières qui sont vendues.
En DJ, c'est toujours des fees.
Ouais, fixe.
Fixe.
D'accord.
En live, c'est justement une économie où t'as en général un pourcentage sur les entrées.
D'accord.
Et ce qui est d'ailleurs. Oui, tu peux gagner plus d'argent, mais le stress de. En vrai, quand t'es en, quand t'es en résidence en train de préparer la tournée et que toutes les semaines t'as ton tourneur qui t'envoie les pointages de vente des différentes villes, ouais, franchement, ça te rend fou, quoi. Ouais.
Pour le moment, tu nous as donné quand même des sommes qui sont franchement basses.
Ah oui,
500
non,
balles.
Ouais, ouais, après, tu commences, quand ça commence à être mieux, tu peux faire 1000, 1500, 2000, 3000. Mais là, t'es vraiment, tu commences à être, enfin, t'es bien, sachant que t'es 15% de manager, t'es 15% de booker. Bien parce sûr. Qu'en fait, tu vois, en général, quand t'es à 500, 600, c'est peut-être les moments où tu vas commencer à avoir un manager. Mais en fait, tu fais 3000 de fee. En fait, ça veut dire que t'as quasiment 1000 euros qui partent.
C'est pas du tout ce qui est dans ta poche, bien sûr.
Ouais. Mais après, c'est normal. En fait, t'as des gens qui, justement, ont fait tout ce travail de démarcher les clubs, de machin. Enfin, faut que. En fait, ce qui est bien, c'est quand un artiste génère de l'argent, en fait, il génère de l'argent pour toute une industrie derrière, pour les agents, pour les bookers, pour les managers, qui sont pas des gens, en vrai, à part quand à part si t'as la chance de booker Amélie Lens, c'est pas des gens qui roulent sur l'or non plus, tu vois. Ouais. Et puis après, bah, en fait, t'as gagné un salaire, donc t'as 50% de charge, quoi. Mmh. Donc t'as fait 3000 euros et tu gagnes 1000.
Après, là, c'est, on parle déclaration URSSAF, etc. Mais bon,
pour le coup, en fait, justement, t'as cette bascule qui est dure pour beaucoup, c'est que 400-500, ouais, tu vas jouer dans des clubs où tu vas les prendre en cash.
Ouais.
Et en fait, dès que tu passes dans un truc sérieux, en tout cas en France, à l'étranger, c'est fini.
Black, terminé.
Ah non, c'est fini. En fait, t'es obligé de déclarer parce que les contrôles machin, et parce qu'en plus,
tu peux pas faire ça pour faire tes heures d'intermittence. Tu peux pas rentrer.
Ah si, du coup, ouais. Ça te fait des cachets en fait.
Ouais.
Oh, non, c'est l'avantage, c'est que du coup, t'as des cachets et du coup, potentiellement, t'as l'intermittence, qui est un dispositif fantastique et qui est une des raisons, je pense, de l'exception. Mais
parce que là, le black n'a plus l'intérêt. Enfin, tu vois, il faut faire tes heures, quoi.
Exactement. Oui, oui. Ouais. Non, et c'est, enfin, il faut, tu vois, un moment quand tu te professionnalises, bah ouais, les gens ils payent des charges sur leur salaire, c'est le jeu, c'est normal.
Et alors toi, ta connaissance, donc il y avait le côté intermédiaire, machin, etc. Quand tu commences vraiment à être une star. Pourquoi pas à l'échelle mondiale? Tu as déjà entendu des chiffres circuler pour...
Ah, si je continue dans ma pyramide, tu vois, si t'es underground mais vraiment cool et que tu commences à être tête d'affiche d'un festival de 2, 3, 4 000, là tu peux commencer à entrer dans du 8, 10, 15. Et en fait, et après,
pour si un set, ça commence à être intéressant. Là.
Oh bah là, ouais.
Tu vois, si un club va sortir même 1005 pour te payer, ça veut quand même dire que tu vois, tu mets une entrée, t'es un club normal, tu mets une entrée à 15 euros, c'est-à-dire que t'as 100 personnes, quoi. Mmh. Parce qu'après, le club, il faut faut payer le loyer, t'as une équipe.
Oui,
tu vois, typiquement, ça va être un club de 200, 300. Bah, ça veut dire que t'as un plateau aussi où t'as un DJ qui ouvre, un DJ qui close, t'as 4-5 barman, t'as 3 agents de sécurité, t'as le directeur artistique et le programmateur qui est dans les bureaux toute la semaine. En fait, faut les générer, quoi, déjà, pour atteindre ce genre de fee. Et après, quand c'est vraiment fat, tu vois, tu peux faire 50, 100, 150, et jusqu'à, je pense, les plus gros cachets, ça va être. Genre, tu fais Fred Degen à Coachella et Skrillex, ils closent le festival. Je pense que tu prends $1 million, tu vois. Mais c'est.
Ouais, mais Coachella, c'est.
Ouais, mais c'est ouais. Coachella et c'est. T'as peut-être 20 mecs dans le monde qui peuvent prétendre à ça, tu vois. Ouais, Guetta, ça doit être entre 200 et 500, tu vois. Mais c'est pareil, il va faire la même chose que tout le monde, tu vois. Il y a son pote, il y a un gig un peu cool dans un club plus petit, il n'a pas d'argent. Il va aller le faire pour 20 000. Peut-être pas Guetta, mais.
Mais si, ça
non,
peut
non,
être
non, mais parce que Guetta. Enfin, c'est pas dans le sens où il serait pas prêt à le faire, parce qu'en fait, il est tellement huge que.
On lui propose même pas, on n'ose même pas lui.
Ouais, je pense pas. En fait, c'est ça aussi, c'est que ton. En fait, les programmateurs qui vont booker, ils ne connaissent pas forcément les grilles des tarifs. Enfin, ou plus les orgas, tu vois, qui vont être. À lancer leur soirée et tout, et ils vont lancer des requests. Et l'agence sert aussi à filtrer ça, tu vois. Il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit « Ah tiens, tu veux faire... »
Une bar mitzvah
Moi j'en ai fait. À l'époque du fond, franchement j'ai fait des trucs absurdes. Des anniversaires de gamins de 12 ans, des anniversaires de 50 ans, des soirées d'entreprise. Franchement...
C'est le grind,
J'ai tout fait. Mais, ouais. Mais oui, ça, l'agent il permet aussi de filtrer ça, de voir ce qui est réaliste, parce que... Bah oui, non, tu peux pas. Enfin, tu peux pas aller jouer pour 200 euros quand c'est ton métier et que tu joues un peu partout, parce que C'est juste.
Pourquoi pas, pour une question d'image ou de valeur implicite.
C'est pas rentable aussi. Non,
c'est vrai. Non mais par exemple, t'avais des trucs où notamment Prince, il faisait ça, tu sais. Il faisait un concert dans un Zénith et puis après, tu le retrouvais dans un rad de merde. Et,
en fait, tu le retrouvais
au New Morning gratuitement. Ouais. Si vous connaissez pas l'histoire de New Morning, j'ai fait une vidéo dessus où on raconte cette histoire avec Prince.
Ah bah voilà, incroyable. Non, mais voilà, tu vois, ce genre de truc aussi, c'est bien pour te rapprocher de ta base aussi et montrer aux gens que, ah putain, truc de ouf, le mec qui était en festoche, on l'a
bien
vu.
Bien sûr, tu vois, moi, j'ai un copain qui s'appelle Antoine Lang, qui, a priori, va faire un pop-up du label début janvier. Il m'a demandé de venir jouer à l'after. Je vais venir jouer à l'after gratos, tu vois. C'est pas la question. C'est, en fait, si t'es programmé dans une ville, en fait, comme directement t'as cette notion de vente de tickets de remplissage, t'as la notion de rareté. En fait, tu peux pas jouer... Tu vois, moi, je peux pas jouer à Paris tous les mois. Parce que si je joue à Paris tous les mois, comment je fais après pour...
Je fais un concert
à la Gaîté Lyrique, comment je fais pour faire complet à la Gaîté Lyrique si on m'a vu, si on a l'occasion de me voir tous les mois. Donc en fait, oui, tes filles montent, mais en fait, la rareté monte aussi. Donc franchement, je pense qu'il y a des DJ... Enfin, tu peux être DJ résident, jouer trois fois par semaine dans ta ville, te faire des 400, 500, sans avoir de commission... en cash ou pas en cash, c'est une autre question, et gagner autant que quelqu'un qui tourne dans le circuit.
Ouais.
Après, c'est pas le même job. Souvent, si tu joues trois fois par semaine dans ta ville, oui, tu vas peut-être faire un gig cool et tu vas faire deux gigs où t'es à la frontière, tu peux proposer quelque chose musicalement, mais en même temps, t'as des consignes de l'endroit dans lequel tu joues et t'es pas complètement libre.
D'accord.
Donc c'est cet arbitrage, en fait, tu vois.
Oui, c'est plein de compromis ou de... Ouais. De régler à chaque fois.
Et après, en fait, on le choisit pas aussi. Finalement, dans cette position de tu joues ta musique comme tu veux et t'as la chance de voyager, en fait, on va pas se mentir, c'est un immense privilège, tu vois.
Ouais.
Et c'est une chance folle. Et t'essaies. Enfin, parfois, les gens me disent ah, mais tu vas faire ça combien de temps? C'est fatigant. Je vais faire ça aussi longtemps qu'on me le propose parce que c'est trop bien, en fait.
Ouais.
Et oui, tu donnes de l'argent à tous ces gens et oui, tu peux moins jouer, mais en fait. En fait, on s'en fiche.
Oui, ça te permet de faire ce que tu
fais. C'est suffisant pour vivre et faire le meilleur métier du monde, en fait.
J'ai une question, et peut-être qu'on terminera avec ça, si ça vous va. Je crois qu'on a commencé à faire bien 2 heures, là.
Ça fait 6 heures.
Ouais, 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 ouais. C'est très intéressant, mais il faudra qu'on s'arrête. C'est... Il y a une particularité quand même du DJ qui peut être valable avec des artistes, producteurs, etc. Mais j'ai l'impression que c'est... plus quand même le cas des DJ, qui est le fait qu'il n'y a pas seulement des établissements culturels, des clubs, etc., qui vont faire appel au DJ, mais aussi des marques, des structures, peu importe lesquelles.
De l'institutionnel.
Ouais, de l'institutionnel, etc. C'est bien plus développé que pour de la musique live de producteurs, etc. J'ai l'impression, on dit, vas-y, pour ma petite soirée cocktail, un peu stylé, je vais envoyer du rêve à mes clients, je vais faire venir tel DJ. Est-ce que c'est un truc qui est très développé, ou en fait, c'est un tout petit circuit, presque personne n'y a le droit? Est-ce que aussi ça change? Quand c'est une marque, c'est pas exactement la même chose. On va peut-être lui demander des tarifs plus importants aussi.
Tu les allumes.
Tu vois, ouais, c'est le principe en théorie. Enfin, tu connais un peu ce circuit-là ou...
Moi, ça m'arrive de temps en temps, tu vois. L'année dernière, j'ai joué au musée d'Orsay, tu vois, pour une fondation qui pousse la culture aux US. Mais ça, l'institutionnel, c'est plutôt cool en général.
Ouais.
En fait, c'est pas vraiment un circuit, c'est que ça arrive quand ça arrive, mais t'as pas vraiment. Où est-ce que tu as des gens qui sont spécialisés dedans?
Genre pour une fashion week ou d'un seul coup, tu sais, pour tous les défilés, les mecs, ils vont dire. Tiens,
ouais, non, clairement, le truc de la fashion, c'est encore autre chose où t'as des.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de DJ dans le cadre de la fashion week.
Ouais, ils font la caisse.
Mais en fait, c'est souvent aussi des DJ qui savent bien travailler leur image, qui ont un certain style.
Oui, qui savent jouer. En adéquation.
Des gens comme Césaire, par exemple.
Ouais, c'est pas le plus mauvais à ce petit jeu. Après, oui, où tu vois, dans notre label, on a une artiste qui s'appelle Didiane, qui est une coréenne, avec qui on fait un morceau qui sort bientôt pour les 10 ans de Rush Music d'ailleurs, qui est ultra connectée dans la fashion, qui était styliste avant en Corée. Et en fait, t'as envie de la booker pour la Fashion Week parce qu'elle travaille son look et c'est pareil, les gens qui nous disent les gens de la fashion, c'est pas du tout. Enfin, vous rigolez, faire des bons outfits, c'est extrêmement dur. Et elle est super forte à ça, et du coup, elle joue souvent pour les marques parce que, ben, du coup, elle
correspond à l'image de la marque.
Ouais, elle a une image qui colle avec ça, en fait. Donc, t'as ces circuits-là. Après, ouais, les trucs d'entreprise privée, c'est plus rare, ça arrive de temps
genre
en temps.
Genre Dassault, tu vois, ils sortent un nouveau Rafale. Et ils disent,
hey,
on aimerait bien que tu viennes mixer.
Ouais, après, on essaie de faire attention. C'est marrant, j'étais avec mon éditrice au téléphone cet après, mais on avait. Je vais essayer de répondre à une commande pour une pub du gouvernement. Je sais pas si ça va
marcher. Wow.
Okay. Non, mais tu vois,
c'est pas toi qui as fait la Marseillaise un peu électronique là. Je sais pas si
vous... Oh là là, la catastrophe.
C'est nul, hein.
Ah, c'est éclaté.
C'est chaud.
Ouais.
Si vous n'avez pas vu ça, allez checker. Je crois que ça va habiller en fait de la communication gouvernementale.
Oui, ils vont le sortir comme les notes de.
Exactement. Ça reprend la Marseillaise de version soi-disant modernisée, et ils ont carrément communiqué en disant "Regardez, on a un nouvel hymne, un peu. Tu vois, c'est pas ouf, quoi."
En vrai, je crois que c'est à la fin de la commande que j'ai eue. Je crois qu'il le passe vite fait.
Ah ouais. Ah.
Mais tu vois, j'ai demandé à mon éditeur. Enfin, avant, j'avais le brief, mais je savais pas pour quel client c'était. Mm-hmm. Et clairement, tu vois, si c'est une entreprise avec laquelle je suis pas d'accord avec les valeurs, bah, j'y vais pas, tu vois. Enfin, et c'est pareil pour les soirées de marque. T'as une marque d'armement qui m'appelle.
Ouais. Ça peut être cool. Ok.
Pas sûr.
mais en plus, enfin. Non seulement toi t'engages ton image en tant qu'artiste, mais t'engages aussi celle du label parce que t'es affilié, t'es Roche Music, donc
ouais, de tout le monde, ouais. De tout le monde, du tourneur, de machin.
Donc ça veut dire si vraiment toi t'as envie de faire cette pub pour Dassault, pas pour un Rafale, mais pour un nouveau Falcon, donc un jet d'affaires, machin, etc. Est-ce que tu peux avoir un Césaire qui te dit non, tu vas pas le faire parce que ça nous fout dedans ou
bon, il pourrait. Après,
il pourrait, mais quand il voit les chiffres.
Non, après, en vrai, la question, elle se pose pas. Et en général, enfin, c'est...
Oh, ça lui fait zère, quand même.
Bisous, Jeannot. Non, mais la question, en vrai, ça arrive quasiment jamais, tu vois. Enfin, les gens savent qu'on a un label indé. Enfin, tu sais dans quel univers on est.
Ouais, mais tu peux avoir.
Ils viennent pas nous chercher, quoi.
Tu peux avoir un designer de tank qui par ailleurs, a des goûts éclectiques.
Non, c'est sûr. Mais en vrai, c'est quoi, ces sons? Ça arrive de temps en temps.
Ouais.
Mais c'est pas courant, quoi.
Bon, les gars.
Ouais.
On passe au recours et on termine?
Ah bah, allez.
Il a un petit sourire. Qu'est-ce que tu t'es dit, quoi? Que t'as parlé de trucs et t'aurais pas dû? Ou c'est quoi?
Non, mais vous êtes bon, vous m'avez poussé sur des terrains.
Non, mais c'est bien. Bah, après.
C'est passionnant, en vrai. Ouais. En vrai, c'est passionnant.
Franchement, moi, j'aurais bien continué.
Oui. Mais on recevra d'autres DJ d'Az. On continuera la discussion, des regards peut-être complémentaires.
Faudrait faire une émission avec trois invités, un DJ vinyle, un DJ CD et un DJ Serato.
Et après, ils se battent dans la boue.
Et ouais, pour voir un peu.
Ouais, c'est clair.
Allez, Rocco, tu veux commencer d'ailleurs, Baptiste, Timmer, qu'est-ce que tu as envie de nous faire découvrir?
On va écouter un remix d'Ascendant Vierge qui s'appelle On a Mountain.
Qui est alors, tu disais que tu adores ce groupe, Ascendant Vierge.
Mais c'est le morceau que j'ai remixé pour mon set à Nice.
Et donc le morceau s'appelle comment, pardon?
On a Mountain.
On a Mountain.
Je crois que je suis Ascendant
c'est
Vierge.
C'est AV version. Ça vient d'un DJ qui s'appelle DJ Danny.
Ok, donc c'est On a Mountain,
tout à fait.
Remix d'Ascendant Vierge.
Exactement.
Par Danny L.R., DJ Danny, pardon.
C'est trop bien.
C'est ultra compliqué à dire.
C'est impossible. Ça cavale.
On s'attend à ce que tu tabasses un peu.
C'est tellement beau, ça
aide à s'entendre.
En soi, ça va lui donner envie de toi, c'est tellement beau. À perdre haleine, je te suivrai jusqu'au bout. Je vois qu'il est perdu devant moi.
Ah ouais, non, je pense que Daz, là, il t'a perdu, effectivement.
Non, mais ça passe. La lumière brille pour les faux. Certains lèvres, oui, je sais tout. Ah ouais, là. Non mais tu sais les délires.
On est pas loin de Cascada quand même. Hein, je suis désolé mais.
C'était trop bien Cascada.
Les délires télé pop musique et tout ça là où ça chante en français. Bon voilà, il faut aussi de la musique pour les provinciaux. Moi je.
Oh là là, c'est horrible. Pour les gens qui viennent d'Annecy par exemple.
Vous m'avez démasqué.
Bon Nazo, le de critiquer là. Qu'est-ce
ouais,
que tu
as alors j'ai retrouvé le nom du morceau parce que du coup mon problème c'est qu'il est japonais. Alors ça s'appelle Mysterious Journey.
Ok.
De Yuji Ono. C'est la BO de. Notamment de Lupin. Lupin 3.
Ah, l'animé, très bien. Bien.
C'est aussi allumer vos samplers.
Ça, c'est une constante dans les choix de base. Ça, c'est pour la MPC.
Ça. Ah, ça, c'est
en vrai, je le note un peu parfois.
C'est vrai.
Avec ses choix. Ah, il y a toujours des cordes qui te tirent les larmes.
Ah ouais. Attends. Là maintenant. Ah là là.
C'est beau,
là,
c'est beau, c'est beau.
C'est magnifique.
Ah, c'est très bon, hein. C'est très très bon. Écoutez du Yuji Ono, c'est excellent. C'est excellent.
Très bien. Et
alors vas-y, qu'est-ce que tu proposes ?
Eh bien,
que tu recommandes ?
Alors, je sais pas parce que j'ai plusieurs possibilités. Je me suis réécouté plein de trucs ces derniers temps. Je me suis écouté vachement de Beastie Boys parce que. Mais si, justement, en pensant à toi, en me disant, mais quelle honte, Daz qui n'aime pas les Beastie Boys.
Daz n'aime pas les rappeurs blancs. C'est comme ça. Voilà.
Daz est raciste. On peut le dire.
J'aime pas les Beastie Boys. J'aime pas Eminem. Même Cypress Hill, ils sont latinos. Je les considère comme blancs.
T'aimes pas Eminem, c'est dur.
Bah, il est fort, mais ça me parle pas. Ouais.
Donc c'est nouveau défi de trouver un rappeur blanc que t'aimes.
Bah oh non, bah y en a
pour prouver que t'es pas raciste.
Ah non, mais c'est pas du tout racisme. C'est pas de ma faute si les blancs sont mauvais.
Ah non mon dieu.
Je plaisante.
Arrêtons vite cette émission, ça va pas du tout.
Non, vas-y, tu sais quoi, balance-moi des Beastie Boys ou même du East 17.
Non, je vais pas mettre de Beastie Boys.
House of Pain.
Je vais mettre un autre.
Tu veux découvrir un truc.
Un truc que j'ai squatté, mais je sais pas si je fais découvrir, mais ah si, c'est parce que tu me disais que tu connaissais pas, j'en ai un peu évoqué tout à l'heure. Je me suis mis tardivement récemment à ce mouvement qui était surtout à son top, je crois, autour de 2017-2018, genre, voilà. Qui est le funk, P-H-O-N-K.
Excellent.
Et qui d'ailleurs connaît une espèce, j'ai l'impression, qui est à nouveau très, très, très fort avec ce qui s'appelle la drift funk, qui vient surtout de Russie, etc. Mais j'ai plus de mal parce qu'il y a un côté presque DM, tâche. Mais c'est exactement ça.
Je fais des donuts avec.
Mais c'est exactement ça parce que c'est lié, en fait, c'était la musique que tu utilisais beaucoup pour illustrer des images de bagnoles et tout. Ah, et donc, en fait, et ouais.
Le drift, c'est vraiment.
D'accord. Ah ouais, tout à fait.
Drift funk, là, ouais.
Mais c'est le côté un peu. Enfin, ça me parle moi, c'est un peu mauvais, plus mauvais goût, tu vois. Alors qu'à l'origine, le funk, c'est plutôt.
Donc, PHONK, on rappelle.
PHONK, qui a, et c'est une espèce de descendant de DJ Screw avec le Screw and Shop, Shop and Screw. Et toute la scène de Memphis, etc. Et puis ils prennent des samples de funk, et puis des trucs un peu, et puis les rythmiques trap, etc. Ils te mélangent tout ça. Et ça donne plein de trucs assez stylés, extrêmement variés. Et on a un Français qui s'appelle Soudière, qui fait ce style-là.
Soudière, et pas Soudière.
Et pas Soudière, non. Oui. Soudière, et voilà. Et le morceau Hide Up, par exemple. Il y a plein de playlists funk sur la Spotify.
Pirelli volume 3.
Hein. Absolument. Et récemment, ils ont c'est l'Italie. Et récemment, ils ont sorti en fait une playlist funk originale sur Spotify où justement, c'est pas le côté drift funk qui en ce moment est très à la mode, mais plus à l'ancienne, plus funky, etc.
On rappelle quand Salman dit c'est très à la mode, c'est écouté par 250 personnes.
Non, absolument pas.
Allez, vas-y.
Allez, Soudière, c'est parti. Hide Up avec Claude Bug. Try me if you think I'm bullshit.
The brother finally decides to stand up like a man and throw down. It's over. Everything starts from now. We all go down unless we stay together. Ain't no one man above the crew. You know that shit.
Saxo bien kitsch, là, tu vois, mais qui fait tout mélanger à ce genre.
C'est pas kitsch, c'est du poète, c'est génial.
Renown.
tape un peu le kick.
Seb, il est fait pour un coffre de voiture. T'as un 18 pouces derrière, et il est fait pour ça.
Absolument, et on te met dans le coffre, comme ça, pour que tu te le prennes vraiment.
Moi, tu sais quoi, ça, je me le rajoute, parce que moi, j'ai une playlist poète avec que du saxo, kitschos, et ça marche.
Mais franchement, ça vaut le coup, et j'ai un petit chouchou, qui est Freddy Confetti. Et j'adore ce qu'il fait dans le style funk comme ça.
Freddy quoi?
Freddy Confetti.
Ah, tu nous emmerdes.
C'est vrai, il faut. Bah non, mais après, je suis pas dans la règle. Sinon, tout le monde doit en remettre un. Non, tu sais ce qu'on va faire? C'est. On fait des live Twitch avec Monte le Son tous les mardis. Et je pense qu'à 19h, rejoignez-nous. Et je pense que je ferai un live, peut-être avec les copains, je verrai, où je fais ça tout seul, où je reviens un peu sur ma découverte funk, et on s'écoute plusieurs trucs, comment j'ai, etc. Je suis pas un expert du tout, mais au moins, tu vois, on fera peut-être découvrir des sons comme ça. T'as une webcam à la maison?
Bah, dans l'ordi, quoi.
Ouais. Et bah, tu viens dans le live et on découvre ça ensemble. Bah,
tu me feras découvrir le monde merveilleux de Twitch que connais pas.
Et bien voilà.
Oh là. Oh là. Oh là.
Bon, en tout cas, un grand merci, Timur, ouais, d'être venu nous voir.
Cool.
C'était passionnant. Ça va, t'as passé un bon moment?
De ouf, trop bien.
Parfait.
Merci de m'avoir reçu.
Avec grand plaisir. Merci, Daz.
Salman, big up.
Bah, c'était bien cool. Merci la bouclette, évidemment.
Merci la bouclette, Flav et Sam, ouais. En backstage. Merci à François pour le montage. Eh voilà, il fait ses routines, oui. De DJ, let's go. Et j'espère que Thomas a remarqué on les place. Avant, on les plaçait à la fin.
Ouais.
Maintenant, on les place pendant toute l'émission.
Non, mais ça, c'est quand on reçoit des geekos. C'est des mecs qui aiment bien le matos.
Dès qu'il y a du matos.
Voilà. Parce qu'en fait, en vrai.
Je suis un geekos, moi.
Non, pas du tout. En vrai, dès qu'un mec achète un peu de matériel de musique, il l'achète chez Thomann. Donc, en fait, on finit par parler de Thomann très vite avec lui.
Ouais, c'est vrai.
Vous êtes musicien, vous achetez chez Thomann et vous allez acheter chez Thomann. Ouais. Pour le futur, c'est sûr.
Même si vous n'êtes pas musicien, achetez quand même.
Oui, pour soutenir DLT. Non, bref. On se retrouve.
Pourcentage, les
gars. Non, en plus, c'est pas vrai. On se retrouve, non pas dans 15 jours, mais normalement dans une semaine. Putain, c'est incroyable.
Bah oui, mais c'est ça qui est très bizarre.
Et après, on reviendra tous les 15 jours.
Je ne comprends plus rien.
Il n'y a rien à comprendre. C'est la fin. C'est fini.
Ok.
Ciao.